Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission qui reprend ses droits après ce long week-end de Ligue 1 et de football. Et ben là, on va refaire le football encore une fois en ce lundi. On a une très belle semaine, encore excitante, bien sûr. Il y a des matchs, il y a toujours de l'actu. On va se régaler et restez bien avec nous. On est là donc jusqu'à 20h avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah, Jean-Louis.
Ouais, ouais, très bien.
T'as passé un bon week-end.
Oh ouais,
t'as passé un bon match. En plus, le déplacement, pas trop loin. Là.
Non, pas au Parc des Princes. Ouais, exactement.
Ouais. Bon, tu t'es un peu chopé un rhume, apparemment.
Mais tout va bien.
Bon, ça va. Bon, on est avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut les copains.
Ça va Dugarry?
Salut Dugarry. Oui, ça va super. Bon, très très bien.
Écoute, on est avec Louisa Nessib. Salut Louisa.
Salut Jérôme.
Salut Louisa.
Ça va Louisa?
Ça va très bien, merci.
Bon, écoute, t'as passé un bon week-end?
Super.
Bon, nickel.
Alors on y va justement sur le débrief de ce week-end, notamment hier, Pierre Sage qui s'est trompé, Lyon a sombré au Parc, alors tu vas te chauffer contre l'entraîneur lyonnais, son discours a-t-il montré ses limites hier soir? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. À 18h30, tu vas t'attaquer aux anti-Luis Enrique, Jérôme, ils seront les accusés du soir, accusés de l'avoir jugé trop vite. Sachant qu'on est peut-être au lendemain d'un des matchs les plus aboutis du PSG hier, donc face à Lyon. Le Casar enchaîné, justement, nous fera sa chanson du lundi sur Luis Enrique, 18h45. Ne ratez pas ça. On va commencer par l'OM, qui n'a plus qu'un rêve.
J'ai encore rêvé d'elle.
Aubameyang qui va centrer. Aubameyang, Aubameyang !
Elle n'est pas vraiment belle.
Le quatrième tireur.
Yeah.
Mais non,
j'ai encore rêvé d'elle.
Luis Enrique qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Il m'a appelé Jean-Pierre Papin.
On va être champion.
Si je
Et oui, ça marche encore cette année. Est-ce qu'on est champion d'Europe ou on gagne l'Europa League? Ce que disait Manu Petit vendredi.
Est-ce qu'on est champion d'Europe si
oui, on peut dire que l'OM est champion d'Europe
quand même,
l'Europa
c'est un trophée.
League. Bah, ouais, mais champion d'Europe, c'est une expression forte, tu vois. Pour moi, c'était pour le vainqueur de la Ligue des Champions, mais.
Mais non.
Bon, d'accord.
Bien
Donc
sûr.
L'OM serait champion d'Europe en gagnant l'Europa League. Alors, on s'en doutait, hein, mais ça a été encore un peu plus criant hier. L'OM va avoir du mal donc à mener de front les deux compétitions qui lui restent, la Ligue 1, avec donc hier c'était un nul à Toulouse arraché à la dernière seconde, et l'Europa League avec la semaine prochaine cette demi-finale aller contre l'Atalanta de Bergame. Faut-il sacrifier le championnat vu les soucis de l'effectif? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. On va faire le point déjà sur les forces et les forces en présence avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis. Salut à tous.
Salut Flo.
Ça va?
Bah écoute, on est en forme, fraté. Hein. On est bien. Hein.
Bah écoute. Ouais, ouais.
Alors, est-ce que c'est possible, aux yeux de l'OM, de sacrifier la Ligue 1?
Écoute, pour le moment, non. En tout cas, faut pas croire que cette demi-finale, là, cette qualif pour les demi, elle a eu pour conséquence qu'au club, on a relativisé ce qui s'est passé hier à Toulouse. Et ce faux pas, parce que le niveau affiché en championnat, surtout à l'extérieur d'ailleurs, et c'était le cas hier au Stadium, ça agace d'autant plus les dirigeants, le staff aussi, qui comprennent pas trop la détermination, le caractère qu'on voit en Europe globalement, l'envie qui est affichée. J'ai souvent en Vélodrome en plus, et puis tout ça disparaît à l'extérieur, parce que je regardais attentivement encore une fois le classement de l'OM à l'extérieur. Ils sont 16e à égalité avec Le Havre et Clermont, donc on a vraiment une équipe de relégables à l'extérieur, et ça au sein de l'OM en interne on n'en peut plus. Il y a des joueurs qui ont vraiment perdu l'occasion de se montrer en première ligne, Joaquin Correa et d'autres, mais le petit turnover logique effectué par Jean-Louis Gasset, ça a créé beaucoup d'agacement, que certains ne saisissent pas leur chance. Des attitudes n'ont pas plu. Donc est-ce qu'on va sacrifier la Ligue 1? Je dis non, parce que là il y a deux rendez-vous importants, mercredi contre Nice et dimanche contre Lens, où il y aura peut-être quelques adaptations, mais des adaptations uniquement. On l'a vu hier, par exemple, Veretout et Aubameyang, c'était programmé, ils n'allaient jouer qu'une heure. La Liga va aussi servir pour relancer des joueurs convalescents comme Klose et Sarr, ou gérer un peu mieux Mbemba. Mais Marseille a bien en tête toujours de revenir, pourquoi pas, à hauteur des places qualificatives pour la Ligue Europa. S'il y a deux victoires contre Nice et Lens, Marseille recollera et sera à égalité avec le club nordiste.
Jérôme, est-ce que l'OM doit sacrifier le championnat ?
En fait, moi, j'ai, je pourrais te dire oui, mais quand j'entends Mehdi et Benatia, et j'en vois tous les gens qui l'ont pas entendu encore, écouter le podcast de vendredi où Mehdi est venu, était mon invité dans l'émission, il nous a dit qu'il y aurait pas de choix de toute façon, qu'il prendrait les matchs. Alors c'est la grande phrase habituelle, les uns après les autres, mais n'empêche que le championnat, quand je regarde le classement. Flo a raison. Il y a deux matchs hyper importants pour Marseille. Alors c'est l'enchaînement des matchs. Moi, je suis encore une fois pessimiste, mais quand je suis pessimiste, en général, ils gagnent. Donc tant mieux pour l'OM, mais je suis pessimiste par rapport à ce que je vois, les blessures, la qualité de l'effectif, même avec du retour de certains. Je suis pas certain que Marseille arrive à devenir une bonne équipe, parce que pour moi, c'est une équipe trop moyenne pour l'Olympique de Marseille et les ambitions d'être en haut du classement. Aujourd'hui. Ils sont rattrapés par leur nombre de points, par leur classement. Il y a des équipes au-dessus. Lens a un calendrier bien plus intéressant que Marseille déjà pour finir au-dessus. Et puis surtout Nice. Nice a 4 points. Là, pour l'instant, ils ont 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Alors, ils se jouent. Imagine, Marseille gagne. Ils reviennent à 4 points, mais il restera 4 matchs. Donc, il faudrait en tout cas espérer que Marseille, sur les 5 derniers matchs qui restent à jouer, gagne les 5. J'y crois pas.
Mais j'y crois pas lâcher le championnat.
Mais en fait, c'est pas une
question. C'est une émission de maths aujourd'hui.
Ça peut pas être inconscient.
Non, mais moi, en fait,
j'ai rien compris.
Bah, je vais te dire qu'ils peuvent pas se permettre de mettre le championnat de côté parce que.
C'est à 3 points. S'ils gagnent 2, ils ont plus 1, tu retiens 4.
Tu fais exprès de pas comprendre, en fait. Mais moi, je pars du principe que le meilleur moyen pour gagner des matchs de Coupe d'Europe et pour être bien, il faut avoir une bonne dynamique en championnat. Dire si tu montres un visage comme ils ont montré à Toulouse, sur le courant alternatif encore une fois, et qu'ils étaient à la limite de perdre à
Après,
Toulouse.
Après, t'avais des blessés, t'as pas forcé certains joueurs, t'en as ménagé d'autres. Ouais. Enfin, je veux dire, inconsciemment, le choix, il va être fait de l'Europa League.
Ça fait 4 matchs qu'ils avancent pas en championnat, Marseille. Il y a 4 matchs de ça, on disait quoi alors? La priorité, c'était la Coupe d'Europe. Donc pour moi, il n'y a pas de priorité, c'est que cette équipe, elle est très moyenne. Donc aujourd'hui, elle peut pas choisir ses matchs. Elle a plutôt intérêt de montrer des bonnes prestations, de faire des bonnes prestations quand le match arrive, à commencer par le match de demain, ou mercredi contre Nice, et puis après tu verras le week-end prochain, tu vas recevoir Lens encore, et après la Coupe d'Europe. Pour répondre à ta question, Jean-Louis, oui. Il faut que Marseille fasse un choix, une croix sur le championnat en se concentrant que sur la Coupe d'Europe. Ça veut dire quoi? Que tu accepterais que Marseille perde à domicile contre Nice et contre Lens et ne gagne pas? Bah non, bon, moi je suis désolé.
Tu es d'accord avec Jérôme?
Mais non, mais ça veut rien dire, choisir, ça existe pas, choisir en football, Jean-Louis. C'est jamais arrivé. Est-ce que tu peux me dire qu'il y a une équipe ou un entraîneur qui a dit je choisis telle ou telle compétition? À mon avis, c'est jamais arrivé. Et puis Marseille, enfin, les matchs, on les voit tous. Marseille, ils sont d'un courage extrême, ils se battent, ils donnent tout ce qu'ils ont, dans la tête, dans les chaussures et ailleurs. Mais on voit les limites de cette équipe. Pour pouvoir choisir, il faut être bon, il faut être excellent. C'est un luxe de pouvoir choisir. C'est pas réservé aux équipes qui se battent, qui donnent tout ce qu'elles ont jusqu'à la fin pour essayer de gratter quelque chose.
Par bonheur, ils ont réussi. Ou Mbappé, par exemple. C'est ça que tu veux dire?
Non, mais pas. Voilà, mais par bonheur, voilà, ils ont réussi à se qualifier pour une demi-finale. Le plus difficile commence. Voilà, ce qu'ils ont fait face à Benfica une nouvelle fois, ça a été au courage, que ce soit à l'aller ou au retour. Bravo à eux, sincèrement. Il faut pas renier les compliments parce que les efforts ont été faits. Encore plus quand tu es limité, certainement. Techniquement, il y a des joueurs moyens qui sont loin du niveau espéré en début de saison. Donc voilà. Moi, ce que j'apprécie de cette équipe de l'OM, c'est que quoi qu'il se passe d'ici la fin de la saison, je pense qu'elle aura tout donné, cette équipe.
Ouais, ça,
elle aura
vrai,
tout donné, avec ses limites, avec des limites, ça c'est certain, on le dit depuis le début de la saison, et là je pense qu'on peut pas se renier, voilà, mais elle aura donné tous les joueurs auront donné, et je pense que les supporters peuvent être fiers de ça, c'est qu'ils auront donné le maximum du maximum de ce qu'ils avaient. Voilà, après, ils vont essayer de jouer.
C'est pas la vie qui transpire en interne, du gars.
C'est-à-dire?
T'es à trois matchs, t'es à trois matchs.
Je le dis, c'est qu'il y a beaucoup. Non mais il y a beaucoup de dirigeants ou même dans le staff qui sont totalement agacés de l'attitude de certains joueurs, notamment à l'extérieur. Donc qu'on dise qu'au forceps ils sont allés chercher certaines choses, notamment à domicile, parce qu'on est un peu peut-être frappé par des matchs qui ont été impactants à Marseille. Mais à l'extérieur, l'attitude c'est pas celle d'une équipe qui donne tout. Enfin, ou alors on voit pas les mêmes matchs. Mais il y a des limites qui sont certaines, ça c'est évident.
Ça,
ah oui, ben on voit pas les mêmes. Parce que moi, en termes de caractère, il y a des joueurs qui sont pas.
Ils sont
à 100%,
nuls.
Qui donnent pas tout, notamment.
Arrête. Mais arrête, Onana, il donne tout ce qu'il a, Onana. Tu veux qu'il donne quoi? Il dit les mecs, ils donnent ce qu'ils ont. L'attaquant, là, le remplaçant qui a mis deux buts, là, inespéré, il donne tout ce qu'il a. Mais oui, mais il donne tout ce qu'il a. Arrête, Flo. Ne soyez pas.
Ah non, mais attends, Flo, je le comprends, Flo, Flo. Mais il relaie ce qu'il dit en interne.
Non, je m'en prends pas, Flo.
Mais Di Benatia, c'est ce qu'il nous a dit vendredi.
Je te dis, le discours
des dirigeants. Décryptez le message de Mehdi en fin de semaine dernière, alors.
Mais Flo, écoute-moi, laisse-moi finir. J'écoute. Flo, bien évidemment.
Mais réponds à ma question après. Décrypte le discours de Benatia, alors, en fin de semaine. Non, mais justement,
Écoute-moi. Le discours du dirigeant, c'est un discours de dirigeant. Il va pas dire qu'il a recruté des joueurs médiocres. Il le dira jamais. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, il ne donne pas tout à l'extérieur. Moi, je te dis, je te le redis, ils savent très bien. Et Benatia, et le président, et tous les dirigeants que leur équipe, elle est moyenne, voire moyen moins. Et ils sont contents de ce qui se passe. C'est trop facile. Et c'est eux les responsables d'avoir recruté des joueurs qui n'ont pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Après, mais c'est trop facile de dire, ah oui, ils donnent pas ce qu'il faut à l'extérieur. Oui, mais t'avais qu'à recruter des meilleurs joueurs. Et parce que l'extérieur et domicile, c'est jamais la même chose. Ça demande d'avoir des résultats à l'extérieur, ça demande autre chose. En termes de qualité, en termes de caractère, en termes de plein de choses. Moi, je te dis que ces joueurs qu'il y a là actuellement, tu peux pas leur reprocher de ne pas courir et de ne pas tout donner. Voilà. Ils sortent d'un match difficile de Coupe d'Europe. Ils se retrouvent à aller faire un match à l'extérieur à Toulouse, difficile. Les mecs, ils en ont plein les chaussures. Ils ont vécu trois entraîneurs cette saison. Trois entraîneurs, sans parler de tout le reste. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. C'est moyen, mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Voilà. Voilà.
L'OM est à sa place. Donc, dernier du classement en Ligue 1, l'OM est à sa place. L'effectif en question, ça vaut une 16e place.
Non, mais Flo,
moi, je comprends et j'insiste là-dessus. Je donne pas mon avis. Je relaye un agacement qu'il y a en interne, chez les dirigeants, chez le staff, chez certains leaders. Donc Jordan Veretout hier est aussi un menteur quand il dit que on fait pas les efforts, qu'on est l'Olympique de Marseille. Tout ça n'est que du cirque en fait.
Non, mais
vous estimez
on peut dire
qu'il y a des limites. On peut dire qu'il y a des limites, tout en estimant quand même que faut pas abuser et que les
c'est une grande naïveté,
Jo.
Vas-y, Louis.
Quand Veretout vient devant la presse et qu'il te dit on n'a pas fait les efforts, tu le dis sur un match, le match d'après, les matchs d'après, ben il y a un comportement qui change, il y a une adaptation, on joue avec d'autres valeurs, d'autres principes, mais du coup il y a rien qui change à l'extérieur.
Alors Louisa, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est un problème d'attitude, de comportement ou de technique comme
ou du niveau?
De limite.
Ben moi je suis d'avis de du gars qui dit, quand il dit que déjà on peut pas choisir, c'est pas possible, quand on est joueur de foot on peut pas choisir. Alors après il y a une gestion à avoir, mais ça c'est le staff qui le fait, mais c'est différent de dire on choisit les matchs ou la compétition. Par contre il peut avoir une gestion, mais malheureusement aujourd'hui ils payent l'effectif qu'ils ont, le groupe, ils n'ont pas l'effectif, ils n'ont pas le groupe, ils n'ont pas le banc pour jouer sur différents tableaux, mais ils sont obligés aujourd'hui parce que aller en finale d'Europa League déjà c'est pas fait, et ensuite de la gagner pour espérer une place en Ligue des Champions c'est encore moins fait. Donc je pense qu'ils sont qu'ils ont plus de chances à aller chercher une Coupe d'Europe en championnat qu'aller la chercher sur une demi-finale.
Il faut une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est inespéré. C'est
ils jouent avec le cœur en fait. Ils sont meilleurs à domicile parce qu'ils jouent avec le cœur, avec d'autres valeurs, avec d'autres envies. À l'extérieur, comme l'a dit Christophe, c'est autre chose. Il faut aller chercher autre chose. Ils n'en sont pas capables. Mais ça, c'est durant les mercatos qu'il faut y réfléchir, qu'il faut le penser. Il faut construire un effectif, façonner un groupe à la hauteur de ses ambitions. Et l'OM aujourd'hui, c'est ce qu'ils n'ont pas.
Tu sais, Flo, pour résumer, en gros, ce que dit Louisa. Et du gars, et moi je suis assez d'accord avec eux de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début, que l'Olympique de Marseille manque de joueurs de talent tout simplement, et que pour jouer à l'OM, je suis désolé, mais dans ces clubs-là, l'envie ne suffit pas. Il faut être au niveau technique, technico-tactique, bien supérieur à la moyenne, ce qui n'est pas le cas de la majorité des joueurs de l'Olympique de Marseille. Parce que les caractéristiques des joueurs de l'OM, même si les dirigeants te disent le contraire, c'est quand même la première chose, c'est cette façon de se battre sur le terrain. Dire moi, quand je prends juste l'équipe d'hier sur le papier, la qualité première de Gueye, c'est quand même ça. La qualité première de Veretout, c'est aussi ça. La qualité première des milieux de terrain comme Rongier, même Kondogbia, les mecs, ils aiment rentrer dans le chou et courir et récupérer des ballons. Après, ok, ça peut être stigmatisé sur 2-3 joueurs. Correa, c'est l'erreur de casting, très honnêtement, parce que lui est totalement là-dedans, où on sent que il manque par moment d'envie, de rigolade, tu sais, de plaisir le terrain à faire les efforts, et c'est pas du tout le style-là, et ça, c'est une erreur de casting. Unai peut être aussi dans cette catégorie-là, parce qu'il se regarde un peu trop, et la technique, Unai, ça suffit pas. Quand tu joues à l'OM, il faut mettre autre chose, un peu plus de caractère, et ça, il l'a pas. Mais à part ces deux joueurs-là, et tout ce qu'on a pu dire sur Klos aussi, qui choisissait ses matchs au mois de décembre, au mois de janvier, le reste, ils sont tellement limités techniquement que, alors, ils ont de l'envie, hein. Et c'est pour ça que, là, Louisa, je te rejoins. Quand tu dis que les résultats à domicile sont bons, c'est parce qu'ils se servent du public avec cette envie-là. Et ils écrasent l'adversaire, ils ont la réussite parce qu'ils la poussent, parce qu'ils courent plus, parce qu'ils font des efforts, parce qu'ils lâchent rien. Et ils sont sublimés à domicile, souvent, par Aubameyang, parce que c'est le meilleur joueur. S'il y a bien un mec qui est au niveau, c'est Aubameyang. Après, le reste, franchement, c'est très, très limité. À commencer à l'extérieur, Flo, quand tu parles des résultats catastrophiques de l'OM à l'extérieur, c'est aussi le reflet de la colonne vertébrale. Les bons résultats, quand c'est plus dur à l'extérieur, et c'est comme ça, c'est l'essence même du foot, jouer un match à l'extérieur...
Il y a être plus dur et être catastrophique.
Non,
là, je te parle d'une équipe qui est 16e à l'extérieur.
Flo, ils sont cata.
En termes d'état d'esprit, tu peux pas me faire croire. Là, on a l'impression qu'on a une équipe qui donne tout, à vous entendre.
Marseille, qui est à bloc
et qui est 16e de Ligue 1 à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est vous qui êtes naïf.
Mais Flo,
parce que
Flo.
J'ai pas dit que c'était une bonne équipe. Attention, je trouve que c'est une équipe qui est très limitée. On a parlé de Correa, Unai, Onana, Pape Gueye, ceux qui étaient sur la pousse, Ulysse Garcia. Il y a une équipe qui est très limitée.
Mais ils sont limités,
pas croire que c'est un effectif qui est 16e de Ligue 1 à l'extérieur.
Mais regarde,
je pense
Flo,
qu'il y a un problème d'état d'esprit.
Regarde,
et vous me vendez une équipe qui donne tout, je suis pas d'accord.
Flo, voilà, la colonne vertébrale d'hier. Regarde Paulo Lopez. Flo, quand t'as un gardien comme ça qui est fébrile, Paulo Lopez, il sort d'une très bonne prestation et on l'a mis en avant, juste titre contre Benfica. Mais là, c'est catastrophique. Balerdi, énorme sur la saison, il n'y a pas de problème. Sur le match d'hier, c'est pas bon, c'est insuffisant, comme très souvent sur les matchs à l'extérieur.
C'est une équipe qui est capable de bien jouer à domicile avec le cœur, ce qu'elle a fait déjà depuis le début de la saison, et qui est capable d'avoir un parcours européen, ce qui est déjà exceptionnel, mais qui n'est pas capable d'enchaîner en étant bon aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que tu voudrais qu'elle fasse un parcours européen, qu'elle soit bonne au domicile et qu'elle soit pas trop mal. T'as pas dit qu'il fallait qu'elle soit bonne et qu'elle soit pas trop mal à l'extérieur. Non, je pense que cette équipe, elle est pas capable de jouer sur les trois tableaux.
Mais tu sais, c'est un peu l'OM de 2004.
C'est un peu l'OM de 2004.
Donc il faut choisir et se concentrer sur ces deux matchs.
Tu peux même dire deux tableaux parce que la coupe, ça a été vite réglé.
Bah si, tu peux choisir du gars. T'aurais pu choisir là hier de laisser Veretout et Aubameyang.
Non mais après, Jean-Louis,
la gestion, c'est pas du choix, c'est de la gestion.
Voilà. La gestion, on est d'accord. Mais d'ailleurs, c'est pas un choix, c'est de la gestion. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'hier.
Oui, c'est pareil.
Ça a été programmé de. Non, mais c'est pas
du choix. À la fin du match.
Aubameyang et Veretout, dès le départ, ils savaient qu'ils allaient jouer une heure. Se servir aussi un peu de la Ligue 1 pour relancer des joueurs. Là, je pense que ça va être le cas. Mais ils vont pas faire une croix sur la Ligue 1. C'est juste un peu d'adaptation par rapport au rendez-vous qui est rendez-vous majeur. Après, ils pourront nous dire ce qu'ils veulent. Le rendez-vous majeur devient la demi-finale.
Ah bah oui, bon, ça c'est clair.
Alors
c'est
voilà.
C'est
sûr et certain. Et vous revenez à mon débat.
Mais Flo,
qu'on donne à part la victoire.
Ah oui, pardon,
qui patiente depuis un moment au 32-16, supporter de l'OM, Victor.
Salut Victor.
Ouais, salut.
Bienvenue,
ça va?
Bienvenue Victor, ouais, écoute, bonsoir, on est en Victor. Forme. Tu nous appelles d'où, Victor?
D'Annecy.
Bon, Annecy.
Bon, je vois que les débats sont passionnés en plateau, en tout cas.
Bon, vas-y, alors qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il faut faire une croix sur le championnat pour se consacrer à l'Europa League?
Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas se le permettre. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on reste quand même l'Olympique de Marseille. Et l'objectif du club en début de saison, c'est quoi? C'est d'être qualifié en Coupe d'Europe. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est d'être dans les trois premières places. Aujourd'hui, on est à peu près à 90% de la saison. On peut encore finir, en tout cas, dans les six premiers. on peut encore éventuellement, je dis bien éventuellement, gagner une Coupe d'Europe. Bon, ce qui paraît très, très compliqué, mais aujourd'hui, c'est une possibilité. Je pense que cette semaine qui arrive est déterminante pour Marseille parce qu'on joue deux concurrents directs, Lens et Nice. Et je pense que du coup, dimanche à 23h, on pourra faire un petit peu le point au niveau du championnat, savoir si on est plutôt bien placé ou si du coup, on peut totalement se tourner vers l'Atalanta en tout cas.
Bon, après, Victor, moi je vais te dire, on a été joueurs aussi, hein, et on est passé par là. Les joueurs, même s'ils vont pas te le dire, parce que ils peuvent pas annoncer, en effet, la priorité c'est le match d'Europa League, la demi-finale, mais ils rêvent que d'une chose, c'est déjà d'être à jeudi soir. Donc automatiquement, il y a des bons matchs. En plus, c'est l'avantage, c'est de jouer deux matchs à domicile. Donc il n'y a pas les déplacements, il n'y a pas le traumatisme des matchs à l'extérieur, comme l'a dit Flo, le classement, c'est quand même une honte d'être dernier dans ce championnat de France-là sur les matchs à l'extérieur. Mais ils vont se servir de ces deux matchs-là pour être prêts jeudi soir. Donc un objectif, c'est ça. Dans les têtes, ils peuvent pas faire abstraction, si tu veux, du match de jeudi prochain en Europa League, la demi-finale. Ça, c'est pas possible. Donc, et moi, tu sais, quand on revient.
Non, mais s'ils font de mauvais résultats, Jérôme, excuse-moi, ils se mettraient une pression supplémentaire.
Si tu gagnes
les deux matchs contre Nice et Lens, ce qui est pas totalement impossible, surtout dans un vélodrome. D'ailleurs, c'était au cœur
mais tu vas jouer quoi la Conférence League.
Non, mais tu peux être dans le coup pour la Ligue Europa encore. Parce que pour moi, tu te mets une pression énorme. Si t'es 9e, 10e quand t'attaques la demi-finale contre l'Atalanta, bon, bah, on a compris. Ils joueront leur saison sur la Ligue Europa, alors qu'on sait que c'est compliqué mais d'aller chercher.
Regarde, Flo, tu sais, quand je te parlais de 2004, je sais pas si tu te souviens très certainement, toi, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mais moi, j'étais joueur et on faisait la finale de la Ligue des Champions. Et eux faisaient la finale d'Europa League. Et on les avait joués quelques semaines avant, tu vois, au stade Louis II. Mais très clairement, c'était sûr. On avait gagné, nous. C'était l'équipe de Drogba, ce que tu veux, et que l'excitation de jouer à Monaco devant un stade plein de Marseillais. À l'arrivée, tu sentais qu'ils avaient fait un choix. Le choix, c'était de se consacrer que sur la finale de l'Europa League. Parce qu'en championnat, ils étaient largués. Ils ont fini 6e ou 7e, je crois.
Victor, merci d'être venu au 32-16.
Merci, Victor.
Merci à vous et puis allez l'OM.
Hein. Allez, à bientôt Victor.
Flo, merci.
À bientôt les amis.
Salut frère.
Salut Flo.
Bravo Flo.
On repart de l'OM à 19h. Bon,
heureusement j'étais là, sinon vous étiez tous d'accord. Donc
très très bon Flo.
C'était pas drôle sinon. Ouais. Non mais c'est vrai. J'ai été obligé de jouer un rôle. Obligé de jouer un rôle pour qu'il y ait un peu de contradiction.
Personne ne joue de rôle.
Flo, fallait faire un peu le naïf sinon c'était pas drôle.
Flo, à 19h30, tu dis quoi? Mumbagna, c'est plutôt Brandao ou Mitroglou?
Écoute, s'il fait gagner la Ligue Europa, on dirait que c'est trop bien. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao.
Merci Flo. Effectivement, ce sera le débat à 19h30.
Drogba.
Mumbagna, est-ce le nouveau Brandao ou le nouveau Mitroglou? Mais bon, on peut même mettre le nouveau Drogba ou le nouveau Papin. Qui sait?
Ah, franchement,
allez-y, 32-16.
Il met le même but qu'il a mis à Toulouse à la dernière seconde en finale de l'Europa League.
Ah là, c'est le feu.
C'est un dieu.
Il a sa statue.
Avec Jean-Louis Gasset, t'imagines les deux là?
Ah, peut-être.
Devant le parvis du vélodrome.
Et toi surtout, hein, je t'imagine, sur Jean-Louis Gasset.
Ah bah, je peux te dire que je serai au Prado et on fera l'émission de là-bas. Hein.
Non, personne t'accueillera.
Ah bon?
Surtout pas Jean-Louis Gasset ni Ghislain Printemps.
Bah, excuse-moi, pourquoi Ghislain Printemps? Il me faisait les lacets à Bastia, qu'est-ce que tu me racontes?
Non, j'espère pas quand même qu'il te faisait les lacets.
Ah bah si.
Non, mais tu te faisais les lacets tout
mais
seul.
Mais c'est un bon mec, hein, Ghislain.
Bah bien sûr, avec tout ce que tu lui as mis.
Bah, bon, c'est un bon mec.
Nouveau Brandao, nouveau Mitroglou sera à 19h30. Dans une seconde. C'est vrai que tu sais être gentil quand tu veux. Les anti-Luis Enrique, ses détracteurs, sont accusés de l'avoir jugé trop vite. Restez avec nous, on fait entrer l'accusé sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h27 sur RMC, on est là, on est bien. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme, elle commence maintenant avec Louise Anessib, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. On est là jusqu'à 20h, restez bien avec nous. Et dans 15 minutes, c'est le moment de Julien Cazard pour se détendre. Oui, l'humoriste, il est là pour se détendre en ce lundi, début de semaine fantastique. Il doit être en grande forme.
Oui, voilà. Il sera en grande forme avec sa chanson du lundi autour de Luis Enrique.
Et si demain vous voulez vous régaler, il y aura deux humoristes. Il y aura Julien Cazard comme tous les jours et Pascal Olmeta.
D'accord.
Ouais.
Donc, qui est le meilleur?
Ah,
qui nous fait le plus rire dans l'année?
Du gars Pascal, non?
Pascal, il nous fait rire quand même.
Ah là, c'est du haut niveau Pascal quand même.
Ah ouais. Ouais.
Ça dépend Julien s'il est bourré ou pas, ça dépend. Vraiment, c'est...
Qu'est-ce qui est mieux, les blagues de Pascal ou les analyses de Julien?
Louisa, c'est cette question. Louisa, toi, tu ferais, lequel te fait le plus rire, Pascal ou Julien?
Tu me disais
Pascal.
Pascal avec son accent du sud.
C'est vrai, il nous fait rire.
Et heureusement. On a des accents.
Heureusement.
Allez, on y va sur la méthode Luis Enrique. Et il y aura la chanson de Julien Cazard justement autour de l'entraîneur du PSG.
RMC, Roten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Et ça, ce que tu l'as dit? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé.
Alors hier, le PSG a peut-être signé sa mi-temps la plus aboutie contre Lyon. 4 buts marqués, une impression générale que le style Luis Enrique était plus efficace que jamais. Avec en plus une bonne répartition du temps de jeu. Désormais, Mbappé, Dembélé n'ont pas joué. Gonzalo Ramos et Barcola les ont remplacés. Ils ont été bons. Ramos a mis un doublé. Alors est-ce que c'est pas le moment de revoir le jugement sur l'entraîneur espagnol? Les détracteurs de Luis Enrique sont accusés de l'avoir jugé trop vite.
Les anti-Enrique, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, c'est les mêmes. Les anti, l'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir, hola Chico.
Bah, l'avocat des anti-Luis Enrique, c'est maître Christophe Bugari. Bonsoir, maître.
Le représentant.
Mais c'est qui les anti-Enrique?
Bah, toi.
Bah, je. T'es
moi, d'accord, ok. D'accord, non, c'est moi. Jamais qu'on appelle un chat un chat. Bah, donc, moi, c'est un anti-Enrique. Jérôme est un pro-Luis Enrique, oui. Alors,
non, faisons plus simple. C'est le procès de Christophe Dugarry, accusé d'être allé trop loin sur Luis Enrique.
Non, je ne me permettrai pas.
On fait plus simple.
Non, ça, je ne me permettrai pas.
Si, justement, parce que c'est ce que tu voulais faire, Jérôme.
Non.
Si, allons-y. Allons-y.
Ça va finir sur les carrières et tout. Non.
Je veux pas dire qu'on ne parlait pas des carrières.
Ça, j'ai trop souffert, moi.
On parle pas des carrières. C'est une règle de base. Le juge Louisa Nessib est là pour trancher. Bonsoir.
Bonsoir.
Allons-y, monsieur le procureur. Donc, qu'est-ce que vous reprochez aux anti-Luis Enrique?
Ce que je reproche dans un premier temps, c'est en effet tous les jugements qu'on a pu avoir sur Luis Enrique. Et moi, je ne dis rien. Moi, j'ai juste été là pour découvrir l'entraîneur. Et j'avais pas de jugement, j'avais pas de délit de sale gueule comme certains ont pu le faire. En effet, à nous dire oui, mais Luis Enrique, la personnalité de Luis Enrique, elle est comme ça. Et puis de toute façon, il prend les gens de haut, il prend les gens pour des cons. Et puis il pense être un génie, mais à l'arrivée, ce qu'il met en place, très souvent, ça porte pas ses fruits. Il y a pas de résultats sur le long terme. Dans ce qu'il veut mettre en place, que ces équipes, quand elles jouent, elles sont chiantes, on s'endort, et que c'est l'Espagne, et que c'est ceci et cela, il s'est perdu dans sa carrière. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en début d'année? C'est vrai que avant que Luis Enrique
signe. Qu'est-ce que t'as dit, toi?
Mais attends, je te parle pas de toi. Je te parle pas de toi, il a pas la parole.
Non, mais moi je parle de toi. Qu'est-ce que tu as dit, toi?
Alors moi, j'ai été mesuré dans mes propos et où j'ai.
Bah, si quand même en début de saison, on s'en rappelle.
Oh la girouette.
Tu trouvais qu'il était trop Luis Enrique.
C'est quoi?
Continue.
Mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi à chaque fois, tout ce qu'il essayait de mettre en place, je disais il faut laisser du temps. Alors qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oui, mais toi avec ton PSG, tu dis toujours ça, tu laisses du temps. Oui, je laisse du temps à un nouvel entraîneur qui arrive avec une nouvelle politique dans le club, avec des nouveaux joueurs.
Oui, on a vu ce que tu as fait avec Genesio, avec Le Sage, tu as donné du temps à tout le monde.
Ceux-là, on les connaît, c'est pour
vrai.
Ça. Donc,
c'est vrai, c'est on les connaît.
Eux, on les a vus. Voilà. Autant Luis Enrique, je découvre un entraîneur qui est là, qui s'est investi d'une mission pas facile, en effet, où il y avait plein de choses qui étaient mises en place et qu'il fallait qu'il mette en place assez vite, parce que dans un club comme le PSG, il y a beaucoup de pression. Et que c'est totale réussite. Donc aujourd'hui, dire que oui, on a pu et j'ai pu dire je comprends pas son turnover, je comprends pas ce qu'il veut mettre en place, pourquoi tactiquement. Et il s'est trompé par moment, mais des fois avec les résultats, vu que tous les détracteurs de Luis Enrique, les anti-Luis Enrique, même les résultats, ils mettaient ça de côté. Alors que l'essence même du football et d'un sport de compétition, c'est déjà avant tout d'avoir les résultats pour essayer de construire quelque chose. Mais non, nous on nous disait oh non, mais le résultat, il a gagné contre Pipo et Molo. Et quand il s'est élevé, les résultats étaient pas là. Ce que je vois, c'est que aujourd'hui, fin avril, toutes les compétitions sont encore en marche et il y en a déjà qui sont gagnées. Le championnat, c'est peut-être pour dans deux jours. La Coupe de France, c'est peut-être fin mai. Le truc, ils ont gagné le trophée des champions. Ils sont en demi-finale de la Ligue des champions. Et quand je vois ce que dégage l'équipe, alors pas que les 11 titulaires, mais l'équipe depuis quelques matchs, en effet, mis à part ce match contre Barcelone au match aller, d'accord, le reste du temps, l'équipe du PSG, franchement, ils m'ont très souvent impressionné. Et à commencer par le match d'hier soir. Dans la continuité du match de Barcelone, franchement, la première mi-temps, elle est incroyable. Dans sa gestion, il est incroyable, franchement. Et pourtant, on pouvait avoir des doutes sur le fait de faire souffler certains et ceci, cela. La totale adhésion de tous les joueurs. Et le pire de tout ça, quand on dit le travail de Luis Enrique et sa personnalité, il est comme ça, il a un ego surdimensionné, il s'aime que lui et tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que les joueurs, ils l'aiment. Bah oui. Les joueurs, tous les joueurs, unanimement, ils te disent tous, c'est un excellent entraîneur. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et encore une fois, hier, pour ceux qui étaient au Parc des Princes, ils ont vu les scènes. Non, ne t'en fais pas, j'ai pas besoin d'avoir du monde pour me rendre compte.
Les joueurs le disent régulièrement.
Je sais juste qu'il y a des signes qui trompent pas.
On va lever le pied un peu sur les attaques perso.
Voilà. De quoi?
Oui, m'espère. Non, mais les attaques perso, Jean-Louis, arrête un peu. Les attaques perso, toute sa plaidoirie, c'est une attaque perso. Donc arrête.
Arrête,
Jean-Louis.
C'est ça.
Écoute-moi bien. J'ai pas envie de participer à ces débats. Toi, Jérôme, comme moi, comme tout le monde, t'as dit du bien et t'as dit du mal de Luis Enrique.
C'est pas pour ça
que t'es un pro Enrique. T'es aussi un anti Enrique. Moi, je me considère pas comme un anti Enrique ou comme un anti parisien comme tu veux le faire. Écoute-moi bien, Jérôme. Moi, je fais mon métier, point à la ligne. Parfois je dis des choses positives, parfois elles sont négatives. Mais à aucun moment je ne suis un anti quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je me rabaisse pas à ça. Voilà, je suis pas un supporter. Toi t'es un supporter, moi je suis pas un supporter, j'essaie de parler football, je fais mon métier. Mon boulot c'est de donner mon avis. Mon boulot c'est de donner mon avis. Voilà, ce que je fais sans jamais aucune arrière-pensée.
Alors est-ce que tu ne trouves pas qu'on a été trop dur
avec la passion? J'ai pas fini. Je fais mon boulot sans jamais aucune arrière-pensée, avec la passion qui m'anime et qui m'a toujours animé. Aujourd'hui, me traiter d'anti-Enrique ou d'anti-parisien comme t'as pu le faire les dernières semaines, c'est tout simplement une honte et scandaleux, Jérôme. Voilà, je te le dis. Écoute-moi bien, la vérité dans le football, tu donnes des leçons. T'es une girouette, tu donnes des leçons. La vérité en football, elle n'existe pas, ni pour toi, ni pour personne. La vérité d'hier, c'est pas la vérité de demain. Donc là, tu fanfarole, tu fais le barbeau comme quoi toi t'avais tout vu, t'avais tout ci, t'avais tout là.
Mais je fanfaronne, tu veux faire ton débat sur ça.
Il y a aucun problème. Pose-moi la question. Laissez-moi finir. Voilà. Donc hier, vous voulez parler du match du Paris Saint-Germain. C'est ton métier. Tu fais comme tout le monde. Il n'y a pas de vérité en football. La vérité d'hier sera peut-être pas la vérité de demain.
Donc, quand on se trompe, il faut accepter de se tromper, c'est tout.
On fera le compte à la fin. Et puis, écoute, on le fera aussi quand tu t'excuseras sur Pierre Sage ou sur Gasset ou sur d'autres équipes. Mais non, mais c'est trop facile d'arriver avec ton écharpe de supporter et d'expliquer parce que tu as des supporters qui sont tous derrière toi.
Non, pas du tout.
Ce que tu fais, les anti-parisiens, juger les gens en disant c'est des anti-parisiens. C'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro du débat. Le niveau zéro.
Jérôme, tes interventions sur Luis Enrique et dis-moi c'est si un jour t'as dit du positif de Luis Enrique.
Juste un truc,
sois au moins honnête.
Écoute-moi bien. On en parle maintenant. J'ai pas dit que Luis Enrique la dernière fois. J'ai pas dit que collectivement c'était mieux que la saison dernière, qu'il y avait des choses qui se passaient. J'ai pas dit ça. C'est faux peut-être. Il y a 15 jours, tu disais du mal, tu le défonçais Luis Enrique après le match aller face à Barcelone. Tu disais il s'est trompé, c'est pas bon, il était à côté de la plaque. Donc tu dis du mal comme tout le monde, Donc arrête de faire.
En début de saison, du gars, il défendait un peu plus Luis Enrique. Et toi, tu disais que tu ne
le connaissais pas. Moi, je le connais. Jean-Louis, le seul truc que je veux dire, du gars.
Et après, je vous laisse finir. Quand il te dit anti PSG, c'était plus de l'humour. Ce que faisait Jérôme ces derniers temps.
Non, c'est pas l'humour.
Il est anti PSG. Je pense que c'est plus de l'humour.
Bien sûr.
Par contre, anti Luis Enrique, c'est basé sur tes analyses du début de saison.
Non, mais Jean-Louis, si au bout d'un moment, on se met tous des étiquettes anti ci, anti ça, il y a plus de débat. Ça rime à rien du tout. Donc arriver comme ça et faire passer les gens anti parisiens, je trouve que c'est à côté de la plaque. Et c'est entre entretenir un espèce de truc qui est ridicule. C'est pas, c'est notre métier d'être anti quelque chose.
Si tu veux,
anti,
mais il y a pas d'anti ou de trop.
Mais à la,
eh ben, c'est mon métier. Je fais mon travail. Des fois, il y a des choses qui me plaisent chez Louis Riquet, et il y a plein de choses qui me plaisent pas. Et je vais te dire une chose. Je dis pas le quart, parce que moi, j'ai passé pratiquement 6 mois avec Louis Riquet. Je dis pas le quart du 10e de ce que je sais et de ce que j'ai vécu. Donc voilà. Donc après que Jérôme vienne m'expliquer, vienne me donner des leçons, ce que
je
dis,
donne pas de
ça
leçons.
A du sens. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que je ressens aussi.
Mais il n'y a pas de problème.
Donc à un moment ou un autre, si, non, mais, donc les leçons de m'expliquer que ça me plaît pas.
Duga, c'était un débat sur le style Louis Riquet. C'était pas un moment où on compte les points en disant, ah, regarde, mais toi, t'as perdu, moi, j'ai gagné parce qu'ils ont gagné là, tu vois.
En plus, tu viens de le dire et me dire, ça m'est arrivé de le critiquer. Sauf que moi, je mettais le pied sur le frein parce que certains, je pense, dont tu as fait partie, ont été très durs et trop loin sur Louis Riquet, tout simplement. Après, on est d'accord ou pas avec sa personnalité, avec son travail. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que tous les gens qui ont été très loin dans les critiques, ils se retrouvent un petit peu coincés parce qu'en effet, tout ce qu'il a apporté au club, et ça, on n'a pas besoin d'attendre la fin mai pour savoir, il a apporté énormément de choses, il faut le reconnaître, c'est tout.
Bon, on va laisser Louisa trancher cette affaire.
Et là, il n'y a pas d'anti-parisien ou quoi que ce soit. Quand je dis anti-parisien, je vais te dire la vérité, c'était pas mon idée de te dire, toi, t'es un anti-parisien, donc tu critiques facilement Luis Enrique ou le Paris Saint-Germain.
C'est ce qu'il a ressenti,
moi, quand je parle de l'Olympique de Marseille, on dit souvent, toi, t'es un anti-OM. Alors que pas du tout, je suis pas un anti-OM.
Moi, j'ai jamais dit ça, je me rabaisse pas ça. Je me rabaisse jamais à ça. Toi, par contre, tu le fais anti-parisien, anti-Enrique. Voilà, c'est le niveau zéro du débat, Jérôme.
Si c'est le niveau zéro, on fait pas d'émission. Allons-y. Si c'est le niveau zéro.
Louisa,
Si ça te plaît,
les garçons, de toute façon, il n'y a pas d'anti ou de pro Enrique. Un entraîneur, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des moments, il y a des périodes sur une saison où on va dire, ce qu'il a fait, c'est spécial, on n'a pas compris, c'est ce qu'il faisait Luis Enrique sur ses compositions, c'est ce qui était critiqué. Donc, c'est pas qu'il est pro ou anti, c'est juste qu'il y a un constat à faire sur les performances de son équipe. Et par moment, on est contre Enrique, par moment, on lui dit bravo. Donc voilà, il y a des périodes où il a été incompréhensible dans ses compositions, dans son jeu. Quand il vient en conférence de presse, qu'il prend les gens de haut, qu'il explique à moitié ce qu'il a voulu mettre en place, il veut pas tout dire, tout ça. Donc
ça,
là,
il va continuer, Louisa, en plus.
Mais là, on peut être anti-Enrique. Sur certaines performances, sur d'autres, on va être pro. Sur celle qu'il a fait au match aller contre le Barça, on est complètement anti-Enrique parce que c'était incompréhensible. Il veut inventer des compositions, des compositions tactiques, des schémas tactiques où même les joueurs ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Donc là, on est anti-Enrique. Ce qu'il fait sur le retour, on est pro-Enrique. Quand il te met une composition où tout le monde comprend les schémas tactiques, les schémas de jeu, où la composition est compréhensible, on aime, on voit du beau football, on est pro. Ce qu'il a fait hier, on est pro-Enrique. Donc c'est pas tout noir, pas tout blanc. Après, ce qu'on peut saluer chez Enrique, c'est qu'il a un groupe de joueurs où il y a une gestion sous pression de l'effectif qui fait très bien, où il challenge ses joueurs, où il implique tout le monde, où tout son effectif est concerné. Hier, il joue avec une équipe remaniée, il propose un football sur une première mi-temps magnifique, incroyable. Donc voilà, c'est là où est sa grande force, c'est dans sa gestion de l'effectif sous pression. Il gère un effectif de la même manière, que ce soit un Mbappé, un Dembélé qu'on voit hier sur le banc, ou un Asensio, Gonzalez qui rentre. Donc voilà, là, c'est là où il a été très fort, c'est dans sa maîtrise de l'effectif, dans sa maîtrise de jeu. Alors après, c'est vrai qu'il a des idées de jeu bien précises, un jeu bien pensé, bien maîtrisé, il a des schémas de jeu bien précis.
Aujourd'hui, Louisa, rien que pour tout ça, c'est une réussite. Tu vois, alors après,
au niveau des résultats, comme tu l'as souligné.
Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si on le juge juste sur la relation qu'il a avec les médias ou comment il parle à des gens où il a pas forcément envie de parler de football, là, en effet, on peut le fracasser parce qu'on va pas voir la qualité du technicien. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, que j'aime ou que j'aime pas la personnalité de Luis Enrique, en l'occurrence, j'aime bien. J'aime comme il est, mais maintenant, ça me regarde. Je regarde juste la qualité du technicien. Et tout ce que tu viens de dire sur l'adhésion du groupe, sur l'image que renvoie ce collectif aujourd'hui, alors qu'il a pris l'équipe vraiment au plus bas de ce côté-là, plus les résultats, font de lui vraiment un mariage parfait aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
Et dans une seconde, Julien Cazard arrive pour son Cazard enchaîné du lundi avec sa chanson. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h46 sur RMC, on est là, on est bien. 10 dernières minutes de Roten sans flamme de la première heure, mais vous inquiétez pas, on est là après 19h et encore des bons débats concoctés par Jean-Louis Tour, comme tous les jours, avec Christophe Dugarry, avec Louisane et Cib. On est là jusqu'à 20h, mais là, on va se détendre avec le moment de Julien Cazard et son Cazard enchaîné, Jean-Louis.
Exactement, et après 19h, Pierre Sage, son discours. A-t-il montré ses limites hier soir 32-16
a pris cher
pour débattre dans Roten sans flamme. Mais là, je crois qu'on va vraiment se détendre.
RMC Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Le fielleux, il est là. Bonjour.
Mais là, par rapport aux 10 minutes d'avant,
vas-y. Non, on va peut-être se tendre.
Tu crois ?
Oui, tu vas voir.
Ok.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est le lundi 22 avril et après un week-end pareil, j'ai envie de dire bravo, bravo Paris. Merci Paris. Non, j'ai pas dit le PSG. Hein. J'ai dit merci Paris. Et pour tous ceux qui disaient, dont toi Jérôme, et peut-être toi Duga, je sais pas au hasard, et peut-être même toi Louisa, ceux qui disaient, ouais, la mairie de Paris s'en fout du PSG, de rien à cirer des supporters du Parc des Princes, eh ben ils en sont pour leurs frais. Vous savez ce qui s'est passé hier soir ? Il y a eu un très beau moment, un très beau match déjà, surtout une très belle soirée. T'as vu cette fête pour Marquinhos ? Eh ben ouais, ils ont célébré Marquis. Et là, il est là pour son record sous le maillot du PSG. Et tout avait été organisé par le club pour faire un truc grandiose. Et la mairie a décidé, elle aussi, de faire un geste à cette occasion. Parce que j'y étais, je l'ai vu. Vers 22h50, juste avant que les gens sortent du parc, ils ont fait envoyer tous les scooters qui étaient garés autour du Parc des Princes à la fourrière. Oui, merci. Et bien attention, c'est-à-dire que tous les... En général, qui sont tous les ans, toute l'année, ils sont là, ils gênent pas. Ils ont envoyé tous les scooters à la fourrière. Voilà, c'est... Alors, pour montrer l'attachement de la ville aux supporters, pour dire, vous venez, on vous soutient, on est avec vous, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer, c'est pas évident. Oui, il y avait mon scooter.
Tu aurais pas de problème perso dans ta chronique, là, quand même.
Mais pas du tout.
C'est incroyable.
Pas du tout. Et alors là où ils sont géniaux, et là, j'en profite pour dire, c'est que quand tu sors du stade, que t'es resté jusqu'à 23h30, tu dis, bon, je vais aller à la fourrière. Eh ben, ils ont pas mis le nom de la fourrière, ils ont attendu 2h du matin pour que tu puisses pas aller la chercher le jour même.
Merci. Non mais chacun va parler de ses petits tracas personnels à l'antenne. Non mais
j'ai juste qu'on est prêt pour les JO. C'est tout ce que je dis. On n'est pas prêt pour tout, mais pour ça, si t'as mal carré ton scooter, on est prêt.
Oui, bah moi,
c'est tout.
Moi, il y a grève dans l'école de ma fille. J'en parle pas à l'antenne. C'est incroyable.
Mais excuse-moi, mais ta fille, elle est pas supportée du PSG. Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans Antenne sans flamme ?
D'ailleurs,
t'en parleras chez Estelle. Et puis t'arrêtes de nous emmerder. D'ailleurs, ce matin, on était tous à la fourrière Pouchet à Clichy, avec nos écharpes, avec tous les mecs qui se sont fait embarquer les scooters. Et on était là. Il y en a d'ailleurs un, notamment. Il était magnifique, il était très chic, très mignon, là, avec un petit pantalon, une chemise Zadig et Voltaire, des Stan Smith. Il a attendu 1h30 pour récupérer son espace. Je peux dire que ça lui a passé de voter, l'envie de voter Hidalgo, le mec. Et alors, on va voter PS, hein, aux élections municipales. Puisqu'elle vous dit qu'elle aime les Parisiens, elle aime les Parisiens.
Elle aime les Parisiens.
Oh non, pas la sorcière. Pas la sorcière. Pas la sorcière. S'il vous plaît, pas la sorcière.
Non, on va pas parler d'elle. On va parler d'elle, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons sur la victoire de l'OM contre Toulouse, qui permet aux Olympiens de se rapprocher avec des champions. T'as vu cette victoire ou pas ?
Oui. Non, ils ont fait match nul de 2. Mais bon, le but de Mbagna, peut-être.
Comment ça, il n'y a pas de victoire ?
Non, à Toulouse.
Ah si, bah si.
Non, non.
Ah bah excuse-moi, bah, t'as mal écouté.
Aubameyang qui va centrer. Aubameyang, Mbagna. Luis Enrique qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Un but de la galaxie marseillaise.
Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel.
Donc j'ai calculé, si on regarde le classement, grâce à ce but victorieux de Mbagna, l'OM remonte à la 6e place, à 2 points de Lille. Et normalement, voilà, ils vont finir 3e, ce qui leur permettra de faire tourner avant la finale de l'Europa League. Parce que vous savez qu'ils sont en finale dans le métaverse. Alors ce match a été spectaculaire.
Oui.
Et a permis à nos équipes...
Toulouse, là on parle. Toulouse-OM.
Oui, la victoire de l'OM contre Toulouse. Non, je veux dire. Ah, t'as pas compris.
Bah, c'est dans le métaverse, oui, il y a victoire.
Rentre dans le métaverse, Jérôme. Ah, toi, oui. tu es dans la réalité, donc tu veux te faire chier tout le monde.
Pardon.
Voilà. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire rêver. Donc, ce match spectaculaire a permis à nos équipes, en direct, de démontrer encore une fois leur côté visionnaire. Quand t'es sur RMC, ils sentent toujours tout arriver, les mecs. C'est ça, il y en a toujours un par semaine. Mais là, c'est chez nous.
Mettre en corner. C'est ridicule, Jornana. Ce qu'il a fait, il fallait dégager pied gauche. Il a mis un pointu pied droit. Heureusement, il y avait hors-jeu. Et Onana, il a un langage corporel qui fait quand même peur. Hein. Il a des difficultés avec le ballon. C'est quand même très, très moyen.
C'est un Moumania, mais en mode défenseur.
Oui, mais en moins bon. Non, compliqué. Et le but de Jornana, le Camerounais.
On voit tout arriver. On voit tout arriver.
Mais il raconte ce qu'il voit, Aurélien. Tous les ratés d'Onana, on les a vus aussi.
C'est mon... Te dire que c'est mon bagnard moins bien et les deux marques, excuse-moi, je sais pas ce qu'il te faut.
Oui, mais bon.
Non, mais c'est grâce à qui qu'ils ont gagné? C'est pas grâce à Jean Onana?
T'es dans le football highlight. Tu regardes que les buts et tu regardes pas autour.
Bon, enfin, le highlight, il te permet quand même d'être encore vivant.
Non, on commente tout le match, pas que le highlight.
Bref, non, mais tu sens les coups, c'est tout. Hier dans l'after, on sentait une grosse affiche, PSGOL.
Ouais.
Et c'est pas Daniel qui débriefait le match.
Non, il était pas là hier soir.
Ouais. Alors moi, j'ai la réponse.
Pourquoi?
Il a besoin de se reposer. Daniel est un petit peu fatigué. Hein, Jérôme, tu m'en parlais depuis quelques temps. Il est un peu fatigué, Daniel. Ça fait 5 ans que tu me le dis, toi. Bon, c'est pas pareil. Parce que surtout, quand on parle de l'OL, il est un peu perdu, Daniel. La dernière fois qu'ils ont parlé de l'OL, ils parlaient de Lacazette et de Lopez, et ça devenait déjà compliqué.
À la fin de la saison, tu penses qu'il va partir?
Ah bah, nous, dans les comptes de supporters, il y a déjà des avis qui ont été lancés comme quoi il y aurait un hommage qui lui serait rendu lors de la dernière journée.
Ah, mais parce que c'est le fameux numéro 2 qui paraît-il est super fort, là, le Brésilien.
Je sais pas s'il est super fort, parce qu'il a juste
de
la Lacazette, hein.
Non, tu parlais de Lopez ou de Lacazette pour la fin de saison?
Lopez.
Ok.
Ouais, je sais pas. Moi, je le verrais bien en Angleterre, franchement. Je pense qu'il
serait super fort en Angleterre. Lopez en Angleterre, non?
Angleterre, si tu fais pas de net, c'est pas.
Vous parliez encore de Lopez?
Oui. Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée pour se souvenir, une journée pour faire avancer la recherche. Pour faire un don de 10 euros à la Fondation pour la Recherche Médicale, envoyez souvenir par SMS au 92 300.
Après, faut qu'il se repose. Vous parliez de qui, là? Vous parliez de Lacazette?
Je pense que c'est la faute plutôt à l'émission.
Bien sûr!
Daniel, il est là pour parler de Lacazette. Il faut parler de Lacazette.
Et les mecs parlent de quelqu'un d'autre. Alors,
faut s'adapter.
Il s'adapte pas, Daniel! Qui va nous revenir en pleine forme, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. La chance qu'il a, lui, c'est que si le PSG était éliminé le 7 mai, le 8, il aura déjà oublié. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. L'homme de la semaine derrière, sans hésiter, l'ami de Duga, hein, Luis Enrique. Alors si on...
Arrête-toi.
Non mais, moi c'est mon ami aussi, donc...
Ah oui.
Si on comprend pas toujours ce qu'il fait, parce qu'on comprend même rien de ce qu'il fait, eh ben faut reconnaître qu'au final, ça marche. Ça marche, hein, c'est comme les chattes, les lances, ils retombent sur leurs pattes. On ne sait pas comment il fait, mais ça marche. Il méritait un hommage en chanson.
T'es pas catalan, t'es pas catalan. Ohé, ohé. T'es pas catalan, t'es pas catalan. Ohé, ohé. T'es pas catalan, t'es pas catalan. Ohé, ohé. Tu peux pas capter, t'es pas catalan. Ohé, ohé. Au parc. Luis Enrique, ohé, ohé. Au parc, au parc, on a Luis Enrique. On comprend pas ce qu'il fait, ohé, ohé. Mais on s'attaque au final, on va gagner. En début d'année, on prépare l'effectif. Plus Neymar, plus de Fekir. Un petit portugais, moustachu et tout chétif. Plus Marco. Plus de poivrons pour la combo. Il fait ce qui lui plaît, lui plaît. Devinez, devinez, devinez où je mets qui. Pour ma compo, il fait ce qui me plaît avec Colomouani. Tout est permis, même sans Kiki. Tout est permis. Au parc, Luis Enrique, ohé, ohé. Au parc, on a Luis Enrique. Il en a rien à cirer, ohé, ohé, de ce que vous racontez sur RMC. Arrière droit, Barcola, milieu gauche, Vitinha, seul en pointe, Donnarumma, Mbappé en 6, pourquoi pas, Dembélé en axial droit, 4-2-4, 4-3-3, 4-2-3-1, ou bien les 3, n'importe quoi, mais moi ça va, on vous dit qu'il fait ce qui lui plaît, lui plaît. Devinez, devinez, devinez où je mets qui. Il fait plouf plouf, fait mon schéma et prêt, c'est fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est amis, on est amis. Luis, merci, et Luis, merci. Ah oh, oui, merci,
ah oui, merci.
Merci,
Luis,
merci.
Enrique, oh,
Merci Luis Enrique. On comprend rien, mais on l'aime bien.
Merci Julien.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Si vous êtes fan de Julien Casar, il sera de retour à 19h45 pour le quiz. C'est Roten contre le reste du monde, c'est tous les soirs à 19h45. Et cette semaine, on a encore une semaine de vacances à vous offrir, donc restez bien là. D'ailleurs, autre cadeau qu'on vous offre tout de suite, si vous voulez aller assister à PSG Lyon, demi-finale de Ligue des Champions féminines, c'est dimanche à 16h. Vous appelez le 32-16 et on vous offre ces places. A tout de suite pour débattre autour de Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais. Son discours a-t-il montré des limites?
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC. On est là, on est bien. La deuxième heure de Roten sans flamme, elle commence maintenant. Et oui, on est encore là une heure. On va se régaler. On va parler de Lyon. Il y aura le quiz, des gâteaux à vous faire gagner. Ça va être une belle deuxième heure avec Louis Anessi, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. Et puis si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, je pense que c'est intéressant de la refaire en podcast. Ne la ratez pas. C'était passionnant, animé, passionnant.
Ouais, exactement. Et dans cette deuxième heure, Moumbagna, est-ce que selon vous, c'est le nouveau Brandao? C'est-à-dire qu'il peut aider l'équipe, pourquoi pas gagner des titres et vraiment faire profiter de son travail à tout le monde, ouais. Ou le nouveau Mitroglou? Dernier flop en date. On aurait pu mettre le nouveau Vitinha aussi.
Brandao, il a fait gagner des matchs européens.
Quand même, voilà. Donc voilà, selon vous, Moumbagna, sur ce que vous voyez, nouveau Brandao, nouveau Mitroglou, 32-16. On reviendra comme ça sur son retournée incroyable à Toulouse hier. Donc 32-16. À 19h45, le quiz, avec à gagner cette semaine de nouveau une semaine dans une résidence Lagrange Vacances. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et puis je vous rappelle qu'on a donc des places pour PSG Lyon dimanche. 16h, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions féminines. Pour vous inscrire, vous appelez au 32-16 et si vous arrivez à temps et qu'il nous reste des places, elles sont pour vous. Tout de suite, on le sait, à Lyon, Jérôme, tu as un nouvel ami.
Ton ami, c'est moi.
Là, j'entendais le discours de Pierre Sage. Il se fout de la gueule du monde.
Je suis ton ami.
Allez. Mais filez-lui la boîte de Grandjean à Pierre Sage, là, parce que l'énergie, il en a plus, lui. Hein.
Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait.
Non, puis il doit avoir beaucoup d'expérience pour jouer tous les trois jours comme ça, Pierre Sage.
Il peut dire ce qu'il a fait avant, là. Ton ami, c'est moi.
Oh, la priorité, c'est le maintien. Mais tu marques les esprits, tu marques l'histoire d'un club. Comment, Pierre Sage? Gagnant des matchs, en gagnant des compétitions.
Je suis ton ami.
C'est scandale. Prends-le la tête comme tu l'as.
Merci, Roland.
On dit que c'est Roland qui part, hein. C'est pas du gars. Ou...
Non, il avait dit Roland. Ça à propos de qui, Roland?
Ah, on peut pas dire, malheureusement, c'était off.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà.
Ah,
d'accord, okay. Je savais pas qu'il était à l'antenne. Mais bon.
D'accord.
Bon, si je donne un indice, refaites-vous le podcast de la première heure. Non, et
c'est bon, c'est bon.
On assez parlait de la personne.
C'est de méchanceté pour aujourd'hui, c'est bon.
Voilà.
C'est bon.
Allez. Alors, Pierre Sage. Clairement, il s'est pris les pieds dans le tapis. Hein. Il n'y a pas de doute. Hier, défaite donc lourde pour Lyon, 4-1 au Parc. La compo de départ avec ses 4 joueurs offensifs, le duo Kakré-Matic donc a explosé complètement. Match qui s'est équilibré à la mi-temps hein, avec son réajustement tactique. Pierre Sage, qui avait donné une très bonne interview à nos confrères de l'équipe dans le week-end. Même. Passionnante sur la façon dont il détaille ses idées de jeu, son style,
comment
sa
il
façon
est arrivé
de travailler,
là aussi.
Comment il est arrivé là exactement.
L'entente avec Textor.
Exactement. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas parfois un trop grand écart entre son beau discours et ce qui se passe sur le terrain? C'est le débat. 32-16, appelez-nous pour débattre. Est-ce qu'il y a eu quelques limites vues hier, Jérôme?
Des limites, il y en a à Lyon. Après, attention, je minimise pas ce qu'il a fait de bien en termes de résultats depuis le début, que ça soit des victoires à l'arraché ou pas, peu importe, elles ont mérite d'être là et contre des adversaires par moments qui étaient plus forts que l'Olympique Lyonnais, il a réussi à les renverser à l'image de leur victoire à Monaco. Et j'étais sur place à l'époque, c'était au mois de décembre, Monaco-Lyon, où ils avaient gagné contre le cours du jeu, mais au moins ils avaient le mérite d'avoir battu une équipe qui va certainement faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais une fois que tu as dit ça, je suis d'accord sur son analyse aussi d'après match quand il dit le plan, vous pouvez me parler du plan de jeu, que je me suis trompé ou pas trompé, mais quand on prend deux buts en 6 minutes dont un sur coup de pied arrêté, tu es mené 2-0 au bout de 6 minutes, c'est vrai que c'est compliqué de parler de plan de jeu derrière parce que psychologiquement, il y a une approche qui est complètement différente. Autant tu as une équipe qui est la tête sous l'eau, c'est l'Olympique Lyonnais et il te faut quelques minutes pour reprendre le dessus, et puis t'as une équipe euphorique en face avec un Parc des Princes qui était chaud, chaud bouillant hier, donc compliqué de reprendre la stratégie de Pierre Sage du début de match. Mais une fois que t'as dit ça, moi, ce que je reproche à Pierre Sage, et bien sûr qu'il parle bien de foot, j'ai adoré, comme tu l'as dit, son interview dans l'équipe, c'est son analyse d'hier, parce qu'il veut pas reconnaître qu'il s'est trompé sur la première mi-temps. Oui, il s'est trompé, parce que quand tu viens au Parc des Princes, et pourtant, il analyse les matchs, il les voit, les matchs, quand tu viens au Parc des Princes pour avoir le ballon, bah déjà, il y a aucune équipe, même quand le PSG a été mauvais, aucune équipe qui a réussi à avoir la possession de balle contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est, je regardais les statistiques, le PSG c'est la troisième meilleure équipe en termes de possession en Europe. Donc c'est compliqué. En plus, au Parc des Princes, de rivaliser là-dessus et même de les battre. Donc déjà, ça c'est là, pour moi la première erreur. La deuxième erreur, c'est de miser sur un pressing tout terrain, haut sur le terrain, pour contrer le PSG à la perte de la balle, ouais. Alors qu'on sait très bien que la stratégie du PSG, et c'est là qu'ils ont le meilleur, ils l'ont montré, c'est les transitions extrêmement rapides qu'ils peuvent mettre en place, et on l'a vu sur la première mi-temps où là il y a eu des fusées dans tous les sens, et encore où il est sauvé, c'est qu'il n'y avait pas Dembélé et Mbappé sur le terrain, parce que si les deux sont là, peut-être qu'au lieu d'en prendre 4 en une mi-temps, ils en prennent 8 quoi. Et la deuxième chose, c'est après la construction de l'équipe, parce que quand tu veux mettre un pressing en place, bah, il faut des mecs concentrés à la perte de la balle et des mecs qui tactiquement ont une vraie culture. Je suis désolé, mais quand tu joues avec Benrahma et Cherki, rien que ces deux-là, je parle même pas de Lacazette parce que qui est un attaquant de pointe et je vais pas lui tomber dessus parce que Lacazette fait beaucoup d'efforts depuis qu'il est revenu à Lyon. Mais quand t'as déjà à la perte de la balle Cherki et Benrahma qui sont pas toujours très concentrés, qui ont pas un énorme volume dans le pressing pour récupérer des ballons, déjà t'as deux joueurs en moins. Encore que t'as les deux milieux de terrain, Kakré et Matic. Matic, on le voit, il est rattrapé par l'âge aujourd'hui. C'est un très bon joueur de football. Il le montre encore. De toute façon, il a pas la carrière comme il a par hasard. Mais aujourd'hui, Matic, quand tu lui mets un peu de rythme autour, tu lui demandes de courir, de faire des montées de 20-30 mètres, il a du mal sans le ballon. Tu vas aller le faire. Donc pour moi, ça, les deux grosses erreurs, elles ont été là dans la stratégie de Pierre Sage, et c'est de pas le reconnaître. Après, nous dire que la deuxième mi-temps t'a changé et ça a stabilisé en mettant cinq défenseurs et puis densifiant ton équipe à 40 mètres de ton but. Oui, mais là, on est passé par là. Quand tu mènes 3-0 ou 4-1 à la mi-temps, ouais, comme le PSG, bien sûr que le PSG en a fait un peu moins et qu'il y avait de la gestion totale. Et de toute façon, on l'a vu dans les changements de Luis Enrique. Donc, oui, c'était un non-match. Il était aussi un petit peu jugé sur ce match-là. Il nous a déçus. Moi, il m'a déçu. Je pensais qu'il aurait une approche complètement différente. Mais bon, après, pour autant, je vais pas lui couper la tête et dire, non, voilà, il est pas au niveau. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur les matchs où il doit élever son niveau, bah il a du mal à faire transpirer quelque chose à son équipe.
Duga, il s'est un peu enflammé hier, Pierre Sage.
Oui, il a été puni. Il est arrivé avec une équipe ultra ambitieuse, voilà, pas face à un Paris Saint-Germain qui était euphorique, pour qui tout fonctionne actuellement. C'est vrai que quand on regarde les statistiques du match, il y a à peu près autant de frappes pour l'un que pour l'autre, à peu près autant de frappes cadrées, mais après l'efficacité des Parisiens, elle est redoutable. Je pense qu'il a sous-estimé cette équipe parisienne en pensant que peut-être qu'elle marquerait le coup et le pas après sa qualification. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette équipe de Paris, même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit capable de produire ce genre de match avec un turnover aussi important. Donc oui, ça a été une réelle surprise. Je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il a été pris aussi un peu par l'ambiance générale à Lyon qui laisse penser que Lyon peut accrocher l'Europe, que Lyon peut faire un comeback. Voilà, moi avant de le juger définitivement, comme je pense qu'il faudra juger définitivement Luis Enrique à la fin de la saison, qui arrive très prochainement, hein, c'est pas dans 6 mois, hein, c'est très rapidement. Je pense qu'il faudra attendre la finale de la Coupe de France. Je pense que c'est là qu'il faudra voir Pierre Sage ce qu'il va mettre en place face au Paris Saint-Germain sur un match qui est à la base, sur une finale qui est à la base assez inespérée. Donc voilà, je pense que on pourra vraiment voir ce qu'il a dans le ventre à ce moment-là. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il s'est totalement trompé et il a été dans sa composition d'équipe et dans ses intentions de jeu et il a été puni par le Paris Saint-Germain.
Louisa, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça peut laisser des traces un match comme ça ou est-ce que ça enlève rien de ce qu'a fait Sage depuis qu'il est à Lyon ?
Non, alors il est vrai qu'après le match, bien sûr, qu'on retiendra les failles de cette équipe lyonnaise sur ce match-là, mais ça n'enlève à rien le travail qu'il a fait depuis son arrivée. Et quand on parle de finale de Coupe de France, ce sera un tout autre match. Un contexte complètement différent qui ressemblera pas certainement au match d'hier. Après, pour hier, moi, je suis d'avis de Christophe et de Jérôme. Il a eu trop d'ambition dans le jeu, trop d'ambition dans la composition de départ, trop de joueurs offensifs. Matic passe à accompagner au milieu. Hein, Jérôme le disait, il est plus capable de courir et de couvrir autant d'espace seul. Après, malgré la défaite, il y a eu de bonnes choses offensivement. Hier, ils perdent surtout sur leur jeu défensif. Ils n'ont pas été capables de gérer les positions larges du PSG. Ils n'ont pas su s'organiser, notamment sur la largeur et entre Benrahma, Nouama et les latéraux. Donc, le petit regret, moi, c'est qu'ils n'ont pas su se réadapter après les buts pris rapidement. Donc voilà, tactiquement, ils n'ont pas su s'adapter à ce que proposait le PSG. Donc voilà, après en deuxième mi-temps, c'est vrai que le fait d'avoir fait des changements, ça a augmenté leur capacité à défendre, mais sur la première mi-temps, il y a eu trop de failles exploitables qui n'ont pas su gérer. Mais aussi le PSG s'est présenté avec une équipe remaniée, mais ils ont été incroyables sur cette première mi-temps dans le jeu.
Après moi, ce que je sais pas si c'est le cas, mais quand une équipe comme Lyon, alors Duga, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que en effet il y a une enflammade aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais, et on se dit tiens pourquoi pas l'Europe avec ses résultats, et à juste titre hein, ils sont remontés, ils sont revenus de nulle part, et là ils montrent le bout de leur nez. Cette enflammade, je pense qu'elle a touché aussi Pierre Sage automatiquement, et que dans sa construction d'équipe, quand tu viens au Parc en étant aussi ambitieux, c'est vraiment que tu veux montrer que, regarde tactiquement Luis Enrique, je vais te montrer que moi je peux te contrer là-dessus, que j'ai les joueurs pour ça et je vais les porter là-dessus.
Des matchs plus à la portée de Lyon, il l'a pas fait.
C'est vrai. Et où il a minimisé la chose aussi, c'est que ces matchs, et là, lui, il les découvre, hein, il est inexpérimenté là-dessus. D'ailleurs, ces matchs à haute pression, et ce qu'il aura, et je lui souhaite, hein, s'il continue l'année prochaine, ce qu'il aura d'autant plus l'année prochaine, parce qu'il y aura d'autres ambitions à Lyon. Là, il faudra pas sauver Lyon, il faudra mettre Lyon tout là-haut. Mmh. Et ben donc, la pression, elle sera différente. Ça, ces matchs à haute pression, je suis désolé, il y a l'approche technico-tactique, on est d'accord, les entraîneurs, ils mettent en place ces trucs, et c'est pas tu joues en 4-4-2 et tu vas gagner, ou en 4-3-3, bien sûr qu'il y a des plans en fonction de l'adversaire. Mais psychologiquement, mentalement, il faut aussi faire grimper les mecs au rideau. Dire, tu peux pas entamer un match au Parc des Princes, prendre le premier but au bout d'une minute trente sur un contre où t'as l'impression qu'ils sont même pas dans les duels, et que sur le deuxième coup dur, du moins le coup de pied arrêté, t'as un premier duel qui est perdu et t'as Beraldo qui se retrouve tout seul au 5-50. Donc pour moi, c'est un problème aussi d'approche. Et là, et Pierre Sage, il a fauté sur ce match-là.
On va donner la parole à Pierrick dans une seconde, qui a fait le 32-16. Est-ce que le discours de Pierre Sage a montré des limites hier soir au Parc? On lui donne la parole sur RMC dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h15 sur RMC, on est là, on est bien. On continue de parler de l'Olympique Lyonnais et de Pierre Sage, oui, qui s'est trompé hier. On en parle avec Christophe Dugas, avec Louza Nessib et avec Jean-Louis Tour. Et puis dans 10 minutes, il y aura un excellent ring des supporters.
Bah oui, Mumbagna, est-ce que c'est le nouveau Brandao ou le nouveau Mitroglou? 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Pierre Sage a-t-il montré certaines limites? Enfin, son discours a-t-il montré des limites hier? Pierrick nous rejoint au 32-16.
Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Bienvenue Pierrick, ça va?
Ça va et toi?
Tu fais quoi dans la vie Pierrick?
Ah, moi je suis assistant d'éducation dans un lycée là.
Ah, bravo. Bah, il y a du boulot. Bah,
merci.
Il y a du boulot.
Non, ça va, je suis pas à plaindre.
Bon, bah tant mieux alors. Bon, qu'est-ce que tu penses de Pierre Sage?
Je pense que oui, c'est un petit peu trompé hier. Quand ton équipe elle en prend 4 en première mi-temps, on peut pas dire que tu t'es pas trompé. Il y a forcément un endroit où ça a pêché. Maintenant, est-ce qu'on peut le juger comme un entraîneur aguerri? Il a que quelques mois de Ligue 1 dans les pattes déjà. Et puis surtout, est-ce qu'il a pas aussi fait des tests avant la finale de Coupe de France? C'était le moment. En championnat, on a plus grand chose à perdre. Par contre, en Coupe de France, on a tout à gagner. Donc, moi, je pense qu'il a peut-être tenté des trucs. Et puis voilà. Et puis, il changera peut-être pour la finale de Coupe de France.
Ah, au moins, il sait qu'il peut pas débuter un gros match comme ça. C'est ça que tu veux dire?
Non, ça, c'est clair et net. Il se met trop en danger. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Alors, même si le PSG a levé un peu, a levé le pied, il a changé. Il y a une équipe qui avait un tout petit peu plus de maîtrise quand même. Donc, il s'est trompé, oui. Mais, Il a su aussi un petit peu rectifier et je pense que c'est de bon augure pour la finale et le mieux l'aborder, quoi.
Est-ce que le problème qu'il a aussi, c'est pas le problème qu'ont eu d'autres entraîneurs de Lyon, c'est un problème avec Cherki. Parce que Cherki, il a fait des bonnes entrées, il méritait sans doute une titularisation parce qu'il est bon en ce moment, etc. Sauf que pour le faire jouer, t'es obligé de changer de système, d'enlever un milieu de terrain.
Ouais, bon,
parce
après
que sur
ça...
le côté, il est oui, moins non, impactant mais... qu'en 10, quoi.
Bah, il est moins impactant.
C'est dans le pied, Cherki, hein, quand même. Hein. C'est très très dur de le gérer, tu le mets où sur le terrain, dans ton dispositif. Tu le fais jouer comment?
Bah, après,
il est bon, quand il est titulaire, il est moins bon. C'est compliqué. Ouais. Bon, après, titulaire contre le PSG, t'es forcément un peu moins bon que remplaçant contre je ne sais qui.
Non, mais Pierrick, je suis d'accord avec cette analyse-là. Après, il ne faut pas prendre Cherki pour, comme tu l'as dit, une épine dans le pied quand tu le mets, quoi, tu vois. Au contraire,
avec
Cherki aujourd'hui, très clairement, et Jean-Louis a raison, tu le fais jouer sur un côté, il manque quand même de volume. Mmh. Et tous les joueurs de côté aujourd'hui, mis à part les grands, les cadors, là, qui se prennent par moment pour d'autres, c'est-à-dire que quand ils perdent le ballon, ils oublient ce qu'il y a à faire. Mais bon, pour ça, quand t'as ce genre de personnalité, vaut mieux faire des différences, marquer des buts ou faire des passes décisives, ce que ne fait pas assez Cherki. Donc automatiquement, sur le côté, il faut des combattants aussi.
Le problème de Cherki, c'est que tu peux pas faire l'équipe autour de lui parce qu'il est pas suffisamment fort, aguerri et décisif. Mais aussi, c'est difficile de le mettre dans un collectif parce qu'il se fait pas suffisamment d'efforts. Mmh. Donc aujourd'hui, la position de Cherki, comment je le mets, comment je l'utilise, dans quelles conditions, dans quel système, c'est compliqué. T'as envie de lui donner sa chance parce que tu sais que c'est un joueur qui peut te faire des différences incroyables. Mais ça me fait penser, tu vois, un joueur qui peut te faire gagner les matchs comme il peut te les faire perdre. Il va t'en faire gagner 1/5. Mais c'est pas suffisant parce que gagner un match sur 5, malheureusement.
Ouais, Louisa.
Comment Cherki est meilleur quand il rentre durant les matchs. Il apporte toujours quelque chose. On attend toujours qu'il y a un petit exploit qui sort de ses pieds. Que quand il est débute, il a pas ce volume de jeu, ce volume de course. Il a pas cet esprit défensif pour l'équipe. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué.
Si toute sa carrière, il va falloir qu'il rentre pour être bon. Ça va être.
Ouais, le problème, c'est que moi, Louisa, ça, j'y crois pas. Moi, aux joueurs qui sont excellents quand ils rentrent et quand ils sont titulaires, ils arrivent pas à tirer leur
épingle. Mais c'est ce qu'il nous montre à tout cas, Cherki.
Mais c'est vrai. Non, mais là où je vous rejoins tous les deux, c'est que il y a un positionnement, c'est compliqué. Déjà, on voit très clairement que jouer sur un côté, c'est problématique. Donc, il faut qu'il joue dans l'axe.
C'est quoi sa position alors? En numéro 10 pour toi?
Ouais, un numéro 10.
Les deux attaquants.
Ouais, mais le problème, c'est que numéro 10 aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, c'est vrai, ce rôle-là de numéro 10, comme ça à l'ancienne, où tu vois les mecs qui n'ont pas forcément un grand volume, mais qui ont de la qualité dans le pied et même dans l'œil. Ouais, et que à Lyon.
T'as vu Asensio hier, comment ça galope? T'as vu Vitinha?
Ah ben non,
t'as
rien à voir. Rien à voir.
Aujourd'hui, les milieux de terrain, ça demande.
Ouais,
ça
normalement.
Beaucoup de choses que Cherki n'a pas, parce que le football a évolué, le football a progressé, il joue dans un certain registre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, être milieu de terrain, même offensif, si t'es pas capable d'avoir un plus gros volume de jeu, c'est très, 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 très compliqué.
Ouais, c'est vrai, mais à côté de ça, le volume, quand Laurent Blanc, l'année dernière, l'avait fait jouer très souvent, on voyait les stats, et franchement, il augmentait, et moi, il me surprenait. On voyait Cherki qui était capable de courir 10, 11 kilomètres dans le match. Et tu te dis, mais quand tu le vois, c'est plus un joueur comme Messi à courir 7 km que d'en faire 10 ou 11. Donc Laurent Blanc avait réussi ce côté-là à lui mettre ça dans la tête qu'il fallait qu'il ait plus de volume. Et s'il le fait, c'est qu'il était capable de le faire. Mais le problème de Cherki, moi je pense, et quand tu l'entends même dans son interview dernièrement, pour lui, le football, c'est une passion, c'est un spectacle. Et qu'il ne fait pas en fonction de son équipe, de l'entraîneur, ce qu'il demande. Donc, en fait, il joue sur courant alternatif. Je pense que même au niveau de la concentration, il disparaît trop souvent sur une mi-temps. Et c'est pour ça que c'est problématique pour son équipe. Hier, quand tu le vois, même si à mener 2-0, ils ont eu des situations, tu l'as dit du gars, ils ont frappé 11 fois au but. Ah bon, après, tu peux frapper 11 fois au but et mettre en danger l'équipe qu'une ou deux fois, hein, tu vois, ce qui a été le cas.
Mais Paris 6 fois 4 buts.
Ouais, c'est vrai. Oui, mais sauf que à chaque fois que Paris.
Redoutable.
À chaque fois que Paris récupérait le ballon, tu savais qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient éliminés systématiquement. Et ça, c'est pas possible.
Bah, on l'a pas vu de l'année, hein. Mais, un tel boulevard pour le PSG.
Ben non, mais quand t'as des joueurs, et encore une fois, là, on se focalise sur Cherki. Mais Nouama, c'est la même chose. Avec le ballon, il fait des bonnes choses. Il n'y a pas de problème. Il est percutant. Mais, putain, quand tu perds le ballon, il faut être concentré, les gars. Et je pense qu'ils ont un problème de concentration. Et Benrahma, c'est la même chose sur l'autre côté. Donc, quand t'as déjà tes 3 milieux offensifs, attaquants, là, qui disparaissent à la perte de la balle, pour n'importe quelle équipe, c'est compliqué, hein.
Dans la transition, ils mettent trop de temps. Ils sont pas assez réactifs. Ouais.
Exactement.
Thierry, est-ce que selon toi, le match d'hier et son résultat va peser sur la Coupe de France, sur la finale?
Bah oui, quand même. Ouais, parce que bon, on a été dépassés dans tous les domaines. Donc quand même, je pense que t'arrives. Ça aurait été mieux d'un peu plus batailler sur ce match plutôt que de prendre une volée. Donc oui, je pense que ça va un peu peser. Maintenant, est-ce que ça va peser négativement, positivement? Peut-être que avec l'orgueil, ils vont peut-être vouloir y aller avec le couteau entre les dents aussi.
Quand est-ce qu'elle est la finale de la Coupe de France, Jean-Louis?
Avant la finale
de la Ligue des Champions.
Une semaine avant la finale.
C'est après la dernière journée de Ligue 1 et une semaine avant la finale de la Ligue des Champions.
Le 25 mai, il y a vraiment 7 jours.
Ça peut
une semaine avant PSG
Real. Ça peut être une opportunité pour Lyon. Ouais.
Bon, le PSG n'est pas encore en finale.
Non, Dortmund avant. De quoi? Oui.
De Ligue des Champions.
Oui, mais voilà. Après, moi, pour Lyon, ce match-là, alors forcément, il te reste dans les têtes, hein, quand tu les as joués un mois avant et que tu en as pris 4 en une mi-temps, mais il va rester dans la tête de Pierre Sage, c'est peut-être là. Et là, il va montrer son intelligence, c'est-à-dire de dire, bah écoute, on fait quelque chose de plus basique que certaines équipes ont déjà réalisé contre le PSG, c'est-à-dire que ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, il y a le scénario du match qui donne cette deuxième mi-temps, cet aperçu où t'as l'impression que Lyon maîtrise bien le Paris Saint-Germain. Moi, j'y crois pas là-dessus parce que le PSG a joué vraiment avec le frein à main sur la deuxième mi-temps. Mais n'empêche que il faut accepter que contre le PSG, t'es pas le ballon. T'as pas la possession. Par contre, tu lui mets un bloc devant lui de 8-9 joueurs. C'est compliqué de passer, de faire des redoublements de passes et de t'approcher du but adverse. Et dès que tu récupères le ballon, il faut savoir contrer. Il y a des équipes avec moins de moyens de Lyon qui ont réalisé ça, hein, les gars. Rennes l'a fait au Parc dernièrement. Brest l'a fait aussi. Donc, pourquoi pas Lyon sur une finale de coupe? C'est totalement possible.
Hein. Allez, on en reste là sur Lyon. Merci Pierrick. Bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt pour débattre autour de Lyon. On revient dans une seconde avec donc cette question. Moumbagna, est-ce que c'est le nouveau Brandao ou le nouveau Mitroglou, à vos yeux? 32-16, à tout de suite, on vous fait monter sur la ligne des supporters.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h27 sur RMC, on est là, on est bien dernière demi-heure de Roten sans flamme, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, on va parler de Moumbagna, l'homme de la semaine du côté de l'Olympique de Marseille, le héros de l'OM en Coupe d'Europe. Et puis il a arraché un point à Toulouse. Et oui, on est avec Christophe Dugarry, avec Louis Anessib et avec Jean-Louis Tour. Et dans 15 minutes, c'est le moment du quiz de Julien Cazard avec tu l'as dit tout à l'heure, un super cadeau à vous faire gagner.
Exactement. Le super cadeau, c'est une semaine dans une résidence Lagrange Vacances. Une résidence 3 ou 4 étoiles partout en France. Vacances à la mer, à la montagne, à la campagne, où vous voulez. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et si vous êtes fan de Julien Cazard, vous pourrez aussi podcaster tout à l'heure le Cazard enchaîné avec sa chanson sur Luis Enrique. Mais tout de suite, effectivement, Jérôme, l'homme de la semaine.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Et oui, le héros de jeudi dernier, le héros marseillais de jeudi dernier a de nouveau frappé, donc lui qui a marqué le but qui a permis à l'OM d'aller au tir au but en demi-finale d'Europa League, Faris Moumbagna a donc cette fois permis à l'OM d'arracher le nul à Toulouse avec ce retourné improbable, dénouement improbable même pour lui vu de nouveau, faut bien le dire, son imprécision technique pendant le match comme contre Benfica. Alors selon vous, Moumbagna, est-ce que c'est plutôt le nouveau Brandao capable d'aider l'équipe dans de grands matchs et même de remporter des titres, ou le nouveau Mitroglou, le dernier gros flop offensif? Bon, dernier gros flop offensif, il y avait Vitinha aussi, mais voilà, on est parti sur Mitroglou. 32-16, on a Noah qui monte sur le ring des supporters, Jérôme.
Salut Noah.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis et salut à tous.
Bienvenue Noah. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Moumbagna?
Pour moi, Moumbagna, là, entre Brandao et Mitroglou, c'est clairement plus du côté de Mitroglou, Vitinha. On voit... par toutes ces errances techniques, les contrôles manqués et les passes manquées sur les contres au milieu du terrain ou en phase offensive. Donc moi, je pourrais vous donner une petite stat que j'ai compté moi-même pendant le match contre Benfica. Moumbagna, il a glissé 3 fois en voulant faire un contrôle. Je pense que ça fait beaucoup quand même. Et puis, l'excuse du fait qu'il ait marqué les buts, bah, le but contre Benfica, je pense que la tête, il peut la mettre autrement. Qu'il veut pas la mettre comme ça, déjà. Donc, je pense qu'il se rate aussi, même sur le but contre Benfica. Et contre Toulouse, là, on peut que l'applaudir, mais j'ai pas vraiment d'explication rationnelle pour expliquer qu'il rate les contrôles et des passes faciles, mais qu'il arrive à mettre un si beau retourné acrobatique. Et pour finir, il y a beaucoup de gens qui disent que l'OM a besoin de jouer avec deux numéros 9, avec un deuxième numéro 9 avec Aubameyang, que ça aide l'équipe et Aubameyang. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas relancer Ndiaye, qui a connu quand même une bonne période à l'arrivée de Jean-Louis Gasset comme le reste de l'équipe, et qui a beaucoup moins d'errance technique que Mumbanya.
Je sais pas. Duga, toi, en penses quoi de Mumbanya?
Pour toi, c'est plutôt Mitroglou.
Pas clairement.
Duga.
C'est compliqué. Il est ni l'un ni l'autre, et en même temps, il est les deux. Après, c'est quoi la différence entre Brandao et Mitroglou?
Brandao,
il a eu un petit peu plus de réussite. Il a gagné quelques titres en plus. Il a eu un rôle physique beaucoup plus déterminant, mais il avait aussi les pieds quand même où c'était très compliqué. C'est sûr que.
Donc Mitroglou, t'avais même pas l'impression qu'il pesait sur les défenses et que les autres pouvaient bénéficier de ça.
Non mais là c'est pareil, il va peser sur les défenses. Je crois qu'il fait quoi, 1m85, il fait 98 kilos, donc ouais, il va peser sur les défenses.
Oui, voilà.
C'est un sacré athlète, ouais. C'est un sacré poulet. Mais après le football, ça se joue dans les pieds, ça se joue pas dans dans les muscles ou dans les jambes ou voilà. Bon, il a montré de telles limites techniques que c'est presque.
Ah, c'est dur.
Étonnant de voir qu'un joueur avait aussi peu de qualité technique puisse même jouer en Ligue 1.
Ah oui, c'est ça. C'est surtout ça.
C'est là, on a vu des choses quand même. Ça pique les yeux, Jean-Louis. C'est vraiment.
Non mais
il y a des mecs qui ont jamais joué en pro, alors que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou même en National, ils doivent se dire, mais ce mec, comment il fait pour jouer en pro?
Moi, du gars,
c'est qu'il doit avoir des qualités. Pour l'instant, il n'a pas pu les montrer, mais s'il est là, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose.
Il va avoir que des qualités de finisseur.
Non mais. Moi, je suis désolé, mais du gars, pour rebondir sur ce que tu disais.
C'est pour ça quand même.
Ce que tu disais, c'est que. J'en parlais tout à l'heure en privé dans les couloirs là avec Oussem.
Oui.
Et je disais mais moi ce que je comprends pas c'est que quand t'es en France, que t'es formé en France, d'accord, que tu joues à un niveau inférieur à la Ligue 1, donc en Ligue 2, en National, même en Ligue 1 dans des petits clubs, quand tu signes à l'Olympique de Marseille ou qu'on veut te faire signer, qu'on te contacte, c'est vraiment parce que c'est une fierté, t'as excellé et on t'a vu des dizaines de fois et des dizaines de fois, et que quand on te signe encore plus dans un mercato d'hiver, c'est vraiment pour apporter quelque chose et qu'on est persuadé que tu vas t'incorporer à ce club et apporter le maximum et continuer ta progression. Mais aujourd'hui, je me dis, et là, pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, des attaquants, même en France, juste en France, qui jouent à l'étage inférieur, il y en a techniquement, deux, trois fois plus forts que Mumbanya, d'accord.
Ouais.
Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas son physique, ils n'ont pas les muscles bien
ça
développés.
C'est intéressant, ça, Jérôme, de savoir pourquoi ils l'ont recruté, qu'est-ce qu'ils attendaient
exactement,
de ce joueur
parce
qu'ils l'ont recruté.
Parce que moi, je suis désolé, Duga, mais quand on voit. Ta cellule de recrutement recruté, il vient de
Bodo Glimt Norvège.
En Norvège. Donc
il voulait du poids en fait.
Il voulait
un attaquant de
poids. Mais j'espère juste que ils l'ont vu des dizaines de fois et des dizaines de fois parce qu'ils l'ont pas signé sur une vidéo.
Benatia le suit depuis longtemps.
Non mais d'accord. Donc qui nous disent alors qu'ils viennent nous expliquer et Mehdi et il en a pas parlé vendredi comme par hasard. Mais je suis désolé mais là ils se sont trompés sur toute la ligne et le mec qui a été voir et qui a fait un bon rapport sur Mumbanya.
Ah ouais, pour toi il est complètement inutile. Tu peux pas te dire que Aubameyang,
le
que les mecs autour
en fait.
Mais quel profil
tirer profil
ça présence. Veut dire quoi Louisa le profil parce que là je comprends pas en fait.
Ah mais moi j'aime pas du tout hein. Déjà non. Pour commencer, c'est non. Pas du tout le genre de joueur.
Mais c'est quoi le profil alors
rêver.
Un mec qui
ont
a des bottes,
apporter
qui
un profil,
a des bottes.
Une présence à la surface de réparation, on voulait apporter des muscles, un physique, c'est tout.
Mais
voilà.
Rassure-moi, Louisa, c'est pas ça le football quand même.
Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille,
que tu t'appelles Troyes dans l'Aube, et que quand ils jouaient le maintien ou l'Orient,
je veux bien. Aujourd'hui, à Marseille, tout le recrutement, n'a pas été bon. C'est pas le premier, de toute façon. Alors oui, il est vraiment pas bon du tout, parce que j'ai une situation contre Benfica. Il a 3 mètres d'avance sur une conduite de balle. Oui, il s'emmène les pieds. Il tombe presque. Ouais. Je me suis dit, il va aller au but, il va marquer le mec. Ouais. Mais pas du tout. Donc en fait, sur tous les.
Elle est bonne, Louisa.
Non, mais en fait, sur, parce que moi, ça m'énerve de voir qu'un profil pareil, il réussisse à signer à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, en Ligue 1, on recherche plutôt ce genre de profil qu'un joueur élégant, classe, propre techniquement, mais avec peut-être un petit physique.
Ils ont Harit et ils ont Unai. Ils sont propres techniquement. Et regarde,
mais ils ont que ça. Eux, par contre, ils ont que la technique.
Vous ne trouvez pas qu'Aubameyang est meilleur quand Mbagna est là?
Mais il lui sert de point de fixation.
Aubameyang, bah voilà.
C'est tout.
Il est là pour ça aussi.
Je pense qu'Aubameyang est content quand Mbagna joue, parce qu'il se dit, au moins, si je me trompe techniquement, de toute façon, les gens vont me prendre pour un monstre, parce que quand ils vont me comparer à Mbagna à côté,
il peut progresser, ce joueur. C'est incroyable sur le plan technique.
Il est complètement inutile à l'équipe quand il est là.
Après, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux Correa à 450 000 euros par mois ou Mbagna?
Bah, largement Mbagna.
Aucun des deux, du gars. Mais le problème, c'est que là.
Il a été décisif cette semaine, Correa. J'ai jamais pas vu décisif.
Non mais c'est vrai, mais
t'as vu les deux buts qu'il y a quand même.
Là, pour revenir sur la question de profil que j'ai pas compris, hein, Louisa, et c'est pas contre toi, parce que un profil comme Mbagna.
Mais il a un profil bien précis quand même, Mbagna.
Ah bah bien précis, c'est quoi? C'est
costaud, grand costaud.
Mais c'est costaud qui va peser sur la défense et qui va être présent sur les centres.
Mais va dans la salle de muscu là, ici les Moulineaux à côté de chez moi. Je vais t'en prendre des mecs costauds, hein, et tu leur dis restez dans la surface.
C'est lui qu'ils ont choisi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, c'est pas pour moi un profil de recrutement.
Bah ça je comprends pas du tout.
C'est pas un profil de recrutement quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille.
Pivot,
mais peut-être qu'il recherchait ça, c'est certainement ce qu'il recherchait s'il en recrutait.
Non mais d'accord.
Ça n'existe pas des avancées comme ça.
Mais pivot costaud, les gars, il y a juste le ballon quand il a le ballon dans les pieds. Alors là, tu vas me dire c'est contradictoire parce qu'il a mis un ciseau contre Toulouse et il a mis une tête. Où là, je suis d'accord avec Noah, notre auditeur, où la tête. Génère, il a fermé les yeux, il a vu la tête, il a mis devant, elle est passée avec la réussite, elle est passée entre les jambes du gardien.
Qu'est-ce que t'es dur, toi? Mais au moins de la tête pour finir comme ça, c'est là où il a un peu
ce qui est gros, Jean-Louis, ce qui est gros, c'est qu'il y a un tel déficit technique que tu ne peux, tu peux pas t'imaginer. Tu peux avoir des pieds moyens, mais là, le déficit technique, il est tellement important que tu te dis, t'as vu les conduites de balles, les contrôles, la faiblesse de la base du football. La base du football. Le football, c'est pas être costaud et faire des déviations de la tête ou avoir une présente, mettre des coups de coude. Ça peut aider. Mais ça peut pas être le football. Ça peut pas être la définition du football.
Et puis, en plus, où là, malheureusement pour lui, il est rattrapé un peu par la patrouille. C'est que rappelez-vous de son interview, après la Coupe d'Afrique. Il a dit, je vais tout casser à Marseille. Moi, vous me connaissez pas.
Mais arrête.
Non, mais donc forcément lui, même lui, en fait, il a aucun recul sur son niveau. Moi, je vais te dire.
Non mais là,
il
a Jérôme, là, pardon, je te comprends pas. Je vais pas être aussi violent que du gars. Je te comprends
il
pas.
Il a aucun recul sur
Jérôme,
son niveau.
Toi, tu te plains des joueurs qui disent rien, discours assez petit, etc.
Mais vaut mieux fermer sa tronche quand t'as ces qualités-là.
Il dit, j'ai envie de tout casser. Bon, mais tout casser.
Mais tout casser. Ah, c'est sûr que les portes du stade, il peut les casser. Il est costaud.
Le mec, il vit son rêve de jouer à Marseille. Il le dit. Il a envie de. Il dit, je vais tout casser.
Tu m'étonnes que c'est un rêve.
J'arrive à bloc, quoi.
Là, c'est la lucidité qu'il a eu. C'est que pour lui, c'est un rêve. C'est un rêve de jouer à l'OM.
Non, mais le discours, où il dit, je veux tout casser avant d'arriver. Bon, voilà.
Franchement, Jean-Louis, va, regarde un peu plus les matchs de Ligue 2 et tu verras qu'il y a des joueurs, des attaquants de Ligue 2 aujourd'hui, grâce à Mbagna, qui se disent, je peux signer à Marseille l'année prochaine. L'attaquant, qui joue en national à Niort ou à Sochaux, il se dit, je peux signer à Marseille. Ben oui, parce que si je vais vite, si je suis costaud et un peu plus de technique, parce que c'est pas dur d'en avoir un peu plus, et un peu plus de sens de jeu, je peux signer à l'OM. Mais c'est quand même grave, quand même, de parler comme ça. On parle de Marseille, c'est le deuxième, troisième meilleur club français, quand même. Là, on parle pas de Lorient, avec tout le respect pour Jacques, ou Clermont, les clubs qui jouent la relégation. Que eux fassent ce choix-là, y a pas de souci. Tu veux un profil costaud, ah, tu tentes un coup. Bah écoute, ou le Havre, tu tentes un coup sur Mbagna et puis t'es rattrapé un peu par la patrouille parce que tu te dis, ouais, techniquement, c'est vraiment très très léger, il peut pas jouer en Ligue 1 celui-là. Mais là, on parle de Marseille, ils peuvent pas se tromper autant. Ils peuvent pas se tromper autant. Et surtout, ne me dites pas.
C'est
pareil. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, en fait, ils ont pris une salle de muscu. Ils se sont dit, tiens, là, y a des mecs qui font de la muscu. Ils sont pas assez costauds. Donc là, on va en prendre deux. On va prendre Onana et Mbagna.
Mais là, c'est le mercato d'hiver. Vous dites tout le temps qu'on peut prendre personne au mercato d'hiver. C'est une histoire d'opportunité. Bon, bah voilà. Tu sais bien que tu prends pas le premier choix à ce moment-là.
Mais tu peux parler le deuxième ou le troisième.
Oui, et puis t'es pas obligé de prendre si tu trouves pas. Mais Jean-Louis, est-ce que
il faut acheter pour acheter.
Jean-Louis, est-ce que t'es d'accord avec moi que même en Ligue 2, des mecs qui vont coûter moins cher que Moumbania, parce que à l'arrivée ils ont quand même mis un peu d'argent, tu vois, auraient pas fait l'affaire. À
Marseille. Non, mais là moi je te fais confiance.
Non, mais écoute, excuse-moi.
Moi, je vois juste qu'il marque des buts dans les moments décisifs.
Mais il marque des buts. Il a marqué deux buts en trois jours.
Les deux buts les plus importants de la saison.
Oui, bah d'accord. Bah écoute.
Bon, Benfica, il a pas tremblé. Oui. Ton attaquant national, peut-être qu'il aurait tremblé.
C'est Brandao. Alors voilà, c'est la question. C'est Brandao.
Ah,
voilà,
merci. Ben, ça fait plaisir. Alors, on a un appel du plus grand défenseur de Moumbania qui est ulcéré par ce qu'il entend depuis tout à l'heure. C'est Steve Savidan.
Oh mon Dieu.
Salut Steve.
mais franchement, mais vous êtes pas sérieux là. L'autre, le roi de la muscu du fitness là, Jérôme Roten là. mais vous êtes pas sérieux quoi.
C'est vrai que toi tu nous l'avais vendu parce que tu le connaissais.
Bien sûr.
Je te laisse.
Non, mais les gars, à ce qui paraît, et Louisa, j'étais d'accord avec toi quand tu disais c'est un profil différent. Bah ouais, comme toute équipe, comme tout recrutement, on essaye d'associer des profils différents. Alors c'est sûr, il glisse, c'est sûr, il est moins élégant que Christophe Dugarry à la grande époque. De Bordeaux, que Jérôme Roten à 3 quand il a gagné le super trophée de la Ligue 2. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
Ah non, 3 c'était l'Intertoto.
Excuse-moi, respecte-moi 2 secondes, c'est une Coupe d'Europe.
Mais franchement, il faut se rappeler le contexte. C'était la fin de la CAN, il était en fin de contrat et fin de saison dans son club en Norvège. Et honnêtement, moi je trouve qu'il fait le job depuis qu'il est là-bas. Alors c'est sûr qu'il n'est pas parfait, il a 23-24 ans, je crois.
23, oui.
Louisa, tu disais qu'il ne pouvait pas encore progresser.
Qu'il ne pouvait que progresser.
Il pouvait pas agresser, quoi.
Et il a plein d'axes de travail, d'ailleurs. Non, il pouvait que progresser.
Ça, c'est l'avantage. Tu peux piocher tous les jours.
Ce que j'écoutais sur la route, franchement, j'étais comme un fou.
Ouais.
Je voulais intervenir.
Alors, on s'excuse.
T'as bien fait. Mais où sont les arguments, Steve?
Il n'a pas trop réhabilité, là, quand même.
Toi, tu le trouves bon, alors, t'as dit?
J'ai pas dit que je le trouvais extraordinaire, c'est pas le problème.
Non, tu le trouves bon.
Je trouve que dans un effectif comme Marseille, c'est un joueur dont on a besoin.
Je suis d'accord avec toi.
Jérôme, franchement,
je suis content qu'un avançant.
Et pourquoi besoin? Pourquoi en fait?
Franchement, regarde, il te marque deux buts cette semaine.
Ouais, d'accord.
Ça fait combien de temps que t'as pas marqué deux buts en une semaine, toi?
Voilà l'argument.
Moi, je suis plus sur le terrain.
Ah ben, ça fait combien de temps? Il a raison, Steve.
Bon voilà, moi c'était juste pour ça, je voulais juste faire une petite aparté. Et puis du gars, j'étais sur la route pour arriver à Bordeaux, honnêtement, j'ai ralenti parce que la première heure, t'as déchiré Jérôme Bretel, j'adore.
Non, mais il est infernal lui. C'est le moment où ça devient un invité gênant. Merci Steve. À bientôt.
Steve, on se retrouve pas cette semaine, mais dans un mois. Allez, bisous.
Il est suspendu cette semaine, Steve.
Bisous.
Merci du gars.
Allez. Bon, pour ça, il est suspendu cette semaine, Steve.
Non, il est pas suspendu. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est quand on construit une équipe, t'as des profils. Et c'est pareil dans l'équipe de consultants. Nous, on a pris un profil à Steve Savidan. On a testé.
Steve, c'est notre Moumbania.
C'est le Moumbania de RMC, Roten sans flamme.
Il est quand même plus utile.
Écoute.
Remarque, l'autre, il aime bien quand même.
Chacun son avis. Et après, il peut aimer Moumbania.
Qui a le mieux réussi sa saison, Moumbania ou Steve Savidan? Franchement, c'est une bonne question, j'aime bien.
Il peut nous rappeler s'il veut.
Ça, c'est Antoine, ça.
Non, du tout. On remercie Noah qui est venu au 32-16. À bientôt, Noah.
Salut, Noah.
32-16 sur RMC. Et dans une seconde, le quiz. Julien Cazard qui est de retour avec nous. Une belle semaine de vacances à gagner. Et surtout, vous allez lancer la semaine, soit Grand Chelem, soit Cuillère de Bois pour Jérôme. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC, on est là, on est bien fini. Les deux heures de Roten sans flamme, dernier quart d'heure, ça veut dire le quiz de Julien Cazard avec une équipe. Aujourd'hui, Louisa Nessib et Christophe Dugarry contre moi et mon joker, c'est Jean-Louis Tour, deux auditeurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de les battre.
Allez, on y va.
Roten contre le reste du monde, saison 3.
Cette semaine, c'est pas une semaine de Coupe d'Europe, donc tu peux gagner. Oui, il y a la Ligue 1.
En fait, c'était dit avec beaucoup de conviction. J'ai envie de les battre. Là.
Faut avoir envie de gagner. C'est l'effet Lucien Riquet, ça.
Il y a une semaine de vacances dans une résidence Lagrange à gagner. Ça soit pour Adrien, soit pour Nicolas. Bonsoir à tous les deux.
Salut les gars.
Salut. Bonsoir.
Salut. Adrien, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Ouais, je vais faire confiance à Jérôme.
Allez.
Personne ne te force. Hein.
Allez.
Nicolas, t'es avec donc le reste du monde.
Nickel.
Allez, Nicolas.
Désolé.
Désolé,
Désolé.
Excusez-moi. Question flash. Quel stade ne pourrait pas accueillir plus de 5000 supporters en cas de Coupe d'Europe l'an prochain?
Le Blé. Est.
Le Est. Blé. Eh, mais le stade s'appelle Le Blé. Désolé. Stade Francis Le Blé.
Francis Le Blé.
Francis Le Blé. Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Le stade.
Le stade Francis Le Blé.
1-0 pour Jérôme.
C'est le stade. Brest n'est pas un nom de stade, c'est un nom de ville. Excusez-moi.
Le pense audience, là, il veut vraiment pas que tu gagnes.
Ouais, je suis désolé. Même si dans l'oreille, quand même, Antoine Varnier me dit, il a pas dit Francis, des Leblés, il y en a plein. Il y a plein de Leblés, il y a Gérard Leblé, Simone Leblé.
Ouais, Simone, ouais.
Toute la famille Leblé. Tu pensais pas forcément à Francis?
Non, c'est pour ça,
Il a pas tort.
Christian. Il a jamais tort, Antoine Varnier. Il pense audience. Mon premier, c'est l'objectif d'Auxerre et de Saint-Etienne. Mon deuxième est plus petit qu'une avenue. Mon troisième est bon pour la santé et pour la planète.
Monte Rubio,
bonne réponse. Il connaît ses idoles.
Ah ouais.
Monte Rubio, bonne réponse de Jérôme Rotten. Question Larquet, ça vous dit? Allez, question Larquet. Sur deux points.
À deux points.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure.
Je prends un joker.
Oh,
quoi? Il a un joker?
Non, c'est un contre-joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Ça fait 5 fois
de suite. En fait, t'as compris que c'est pas moi qui choisissais les contre-jokers.
Bah,
c'est Barnier. Question Larquet. Question.
Il faut qu'il perde.
Question Larquet.
C'est vrai qu'il dit ça.
Qui a été. Je répète pas ce qu'il m'a dit. Qui a été élu Ballon d'Or en 1978?
Ah. Maradona.
Robson.
Rubénigueux, Kempes.
Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Il n'y a que les Européens qui trouvaient le Ballon d'Or à l'époque.
Qui gagne?
Keegan, bonne réponse.
Ouais, 78.
Oh. Eh ben oui, 78. Kevin Keegan, bonne réponse de la Duke.
C'est un Anglais, gentil que des Anglais.
Ah, et que des Anglais. En plus, dans une équipe allemande, vous allez tout dire. Question, est-ce qu'on ferait pas une question Almeta? Eh, question Almeta!
Ça faisait longtemps.
La
question Almeta, soit tu réponds bien, soit...
Je vais chier sur ton scooter!
Et ça fait un point en moins.
Louisa, est-ce que t'as un scooter?
Non.
Ah, on pourra pas chier dessus, mais on va te poser quand même la question.
Je précise juste pour son fan club, ils sont très nombreux, il sera là demain, Pascal, 18h dans Rotten. Ouais.
Il a un fan club?
Bah, bien sûr.
Oh, putain, bien sûr.
Mais les gens adorent Pascal. Il remonte très haut dans nos études qualitatives.
C'est le public de TPMP, c'est quoi?
On va pas.
Allez, il remonte très haut. Il y a Jérôme et juste
attention.
Après
Pascal. Louisa, est-ce que tu es avec moi? Il n'y a que toi qui réponds. Dans l'équipe de 2018 de l'Olympique. L'Olympique, magnifique. Qui a joué contre l'Atlético en finale. T'en souviens ou pas, cette belle finale? Atlético Madrid, Marseille Atlético Madrid 2018, t'es avec moi ou pas?
Louisa?
Louisa. Oui, je suis là.
Tu t'en souviens de cette finale?
Elle triche là. Donc
que ça se joue à rien, que Valère Germain,
s'il met tricher, son... vas-y. Si.
Quel joueur aurait été meilleur avec des cheveux longs? Il y a un jeu de mots. Il aurait été meilleur avec des cheveux longs. Un joueur incroyable, de milieu de terrain.
Bah ça va, bah, dis-lui aussi.
Il était formé à Châteauroux, je crois.
Deux.
Châteauroux?
Non, c'est pas Château.
3.
C'était Morgan Sanson. Ça y sort, les cheveux longs.
Ouais.
Oui, il était compliqué celui-là.
Ouais, il était dur. Hein.
Là, c'est un point de loin. Donc 2-1.
Attention, qui que c'est-y? Quel international portugais se faisait souvent soulever par Ronaldo à l'entraînement?
Couteau?
Non.
Pas mal.
Il soulevait quoi, Ronaldo? À entraînement.
Fonte.
José Fonte, bonne réponse de
la Dugue, comme on l'appelle.
2-2. Gros quiz de Dugue, bravo.
Ouh. Ça va le golf, Dugue? Ça se passe bien?
Bah oui.
Ça va.
On m'a
ça
dit
va,
que t'étais pas mal. Hein. J'ai un ami à moi qui a golfé avec toi. Pas mal.
Mais tu nous racontes ta vie vraiment dans toutes les chroniques.
C'est dingue.
Il m'a dit, il est vachement sympa, Dugue. Comme. Sous-entendu. Je sais pas pourquoi. Qui se rappelle?
Encore?
Quelle ville? Ah, c'est pas une question de nez, c'est qui se rappelle, c'est pas question d'arcade.
Ah, ça n'a rien à voir.
C'est pas aussi vieux que ça.
Ok.
Quelle ville a vu deux fois Liverpool gagner la Ligue des Champions? Quelle ville a vu deux fois Liverpool?
Istanbul.
Alors, c'est pas Istanbul.
Moscou, Paris.
Madrid.
C'est une capitale.
Wembley, Londres, Madrid, Cardiff.
Rome,
bonne réponse de Dugas. Bonne réponse de Christophe Dugarry qui est chaud.
3-2.
Chaud patate.
Bon. Balance des capitales, toi.
Attention, ah, mais faut les connaître, il est marrant, lui.
Je connais plein.
Il est marrant, l'autre.
On l'a tué.
Il est 18 en Géo.
Ouais.
Capitale 19. De la Roumanie.
19.
Roumanie, Jérôme.
Bucarest. Bien joué.
Je t'ai avoué.
Rapide. Qui kawège ici? FC Bâle. Schalke Nulfir. FC Séville. FC Barcelone.
Rakitic.
Rakitic. Bonne réponse, il est chaud, 3-3. Il est là.
Bravo, Jérôme. Les 30
attention.
Mets...
Que qui écoute? Ils sont là, les auditeurs? Attention, allô?
Adrien,
on se réveille. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Quel joueur français a perdu une finale de Coupe d'Europe contre un club français?
C'est les auditeurs, là.
Oui, que les auditeurs. Papin. Bonne réponse. Papin. Oh, joli.
C'est Nicolas?
Non, c'est Adrien.
Bravo, Nicolas. Arrête toi, pourquoi? Attends, je te jure.
Avec 4-3 pour Jérôme. Attention, question du Gary. Ah. Question du Gary.
Oui. On y va.
Question du Gary.
Elle va arriver, elle va
question
arriver.
Question du Gary.
Elle arrive de Bordeaux.
Pas
de
c'est le décage.
Oh, du gars, qu'est-ce que tu caches dans ton cerveau? Ouais, what do you hide into your brain? Oh, bro.
Du gars, tu te souviens, t'es allé en finale de Coupe d'Europe. Sublime. En 95-96, dans un parcours incroyable, vous avez fait l'Intertoto, j'en ai encore des frissons. Et vous allez contre le Bayern, oui, je m'en souviens. Contre le Bayern en finale, mais qui est votre sponsor maillot cette année-là?
Mon sponsor maillot, Panzani.
Panzani.
Ah oui.
Bonne réponse.
Bravo,
de Christophe Dugarry. Eh oui, il est là, Dugarry.
4 partout.
Eh ben ouais, ben t'avais qu'à être bordelais.
Je pense que c'est un super match.
Question double.
Hein, question. Ouais, 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 j'en savais rien.
Si,
arrête,
si, le maillot. Je le vois encore, le maillot Panzani.
Maintenant qu'on te l'a dit, mais on l'a
question. Question double. Non, mais c'est...
J'avais suite du gars, mais ce soir, je vais le brûler.
Dis donc. Oh. Question double. Si lui qui répond à la question a le droit à une deuxième réponse. Citez-moi. Jean-Pierre Papin, vous savez qu'il a été meilleur buteur pendant 4 années d'affilée du championnat de France.
Ouais.
Même 5.
Mais t'en parles parce que Gasset a dit que le but d'hier, ça l'a fait
pas. Ah oui, c'est par rapport à Mumbagna. C'est l'ancien Mumbagna. Vous rappelez de JPP, c'est l'ancien Mumbagna. L'ancien Mumbagna était meilleur buteur, comme sera bon, Mumbagna,
vas-y.
De 88 à 92. Citez-moi un joueur qui a été une fois deuxième meilleur buteur de la Ligue.
Wea. Klinsmann.
Non.
Wedek.
Vous pouvez le dire, les autres. Hein.
Ouais, non pas.
Boli, deuxième meilleur buteur derrière Papin.
Boksic.
Vas-y, il y pense.
Boksic.
Non. Boksic, il arrive après.
Après, Ferreri.
Voleur.
Non, ils arrivent après, ces gens-là. Non. Il y a un joueur français qui a joué au PSG ensuite. Il est à Metz.
Patrice Garande.
Calderaro.
Premier, pardon. Patrice Garande est arrivé en premier.
Putain. Ouais, tu peux pas trouver Garande, toi?
Patrice Garande. Et si tu donnes un deuxième, Dugas, tu as bon.
Vous répétez la question?
Un mec a été deuxième meilleur buteur. Mais t'as répondu une fois, donc tu dois connaître la question. Patrice Garande a été une fois deuxième meilleur buteur.
Calderaro, je viens de le donner.
De Dugas. Attention, question à 2 points.
Bien joué, Dugas.
Question à 2 points.
T'as pas honte, toi.
Trop fort, Dugas.
Trop fort, Dugas.
Ah bah oui, je vois, trop fort. Bah oui, bah oui.
Louisa, elle a trop encouragé Dugas, j'ai l'impression.
Elle est là, c'est la pop-up girl. Pour l'instant, tu peux répondre, t'as le droit.
Mais je les connais même pas, ces joueurs.
Et même un vieil. Rassigne-toi, gros.
Garande a entraîné Jérôme quand même.
Ouais, c'est un grand entraîneur, Patrice Garande quand même. T'as pas, tu te souviens pas à quand? Mais allez, question de Dzeko.
Ah.
C'est la question Eric Dzeko.
Mais il est fou ce mec. Oui. Oh, donne-lui une gifle pour moi. Tu dis bien que c'est moi qui lui ai mis.
Et on peut tricher, mon vieil. Et pardi.
On me bat les couilles.
C'est le principe, Jérôme, tu peux tricher là.
Non, je veux pas moi.
Alors.
Dommage de le faire là sur
je
une.
Je suis pas Eric Dzeko.
D'accord. Vous allez chacun à votre tour me donner le nom d'un Portugais qui l'a joué en première division de la France.
Roy Barros.
Bonne réponse.
Paoleta.
Bonne réponse. Dugas. Vite. Dugas, une fois. Dugas, deux fois. Dugas.
Paulo Futre.
Ouf, c'était chaud. Paulo Futre, il a. Oui, exactement.
Vitinha.
C'est bon. Vitinha. À toi, Louisa.
Anthony Lopez.
C'est bon. Dugas, vite.
Roy Barros.
Déjà dit. Aïe.
Par qui?
J'ai entendu Ribéry. Sheka. Hein. C'est Jérôme en premier.
Oui, c'est moi qui l'ai dit.
Sheka.
Ah, pardon.
Sheka.
Sheka, ouais. De Lille.
Bien sûr. Oui, Sheka de Lille, pardon. Oui, pardon, excuse-moi.
Le portugais, là.
Oui, le portugais, Sheka. À toi, Louisa.
José Font.
José Font, c'est bon. Chalana, c'est bon. Louisa.
Ronny Lopez.
C'est bon. Bastos, c'est bon. Et Bastos, attends, il est portugais. Bastos,
Bruno, 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 non, les Brésiliens, les Brésiliens.
Bruno,
aïe,
Bastos.
Aïe, aïe.
Non, c'est Basto.
C'est Basto. Aïe, aïe, Bruno, aïe, 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 non, non, Bastos, c'est
Bruno,
pas bon.
Bastos, c'est
deux, et si tu en dis un seul, arrête, Louisa, tu as deux
Bastos,
points.
Bastos, il y a des fois, il mettait un S. Michel. Des fois,
il
mettait un S. Gonzalo Ramos.
Gonzalo Ramos.
Mais non, Bruno Basto.
Mais non, tu confonds avec Simone Leblay. Allez.
Bruno Basto, Bruno Basto est pas portugais.
Allez, on va faire les joueuses à moustache.
C'est fini, victoire de Nicolas qui remporte le quiz.
Roten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne, trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Tout de suite, Génération After avec Nico Jamain et les drôles de dames comme tous les lundis. Salut Nico.
Salut Nico.
Salut Jean-Louis, salut Julien, salut Jérôme, salut Louisa, salut Christophe.
Mais tu connaissais Bruno Basto.
Bruno Basto, évidemment. Parfois, il y avait un S. Il me semble
mais que oui, il soit trompé deux, trois fois.
Il a floqué un S une fois. Je pense que Jérôme se souvient de ce moment-là.
Je crois pas. Si, mais bon, c'est
bon, le Barça a-t-il raison de crier au scandale après la défaite face au Real dans le Classico? On va en parler avec Fred Armel qui vient avec des éléments également. On va parler également du record d'invincibilité du Bayer Leverkusen, l'équipe qui s'arrache dans le temps additionnel encore une fois ce week-end, et puis aussi de United qualifié pour la finale de la Cup après une grosse frayeur. C'est les drôles de dames qui arrivent dans un instant, Jérôme.
Bah, amusez-vous bien, Nico. On se retrouve demain, nous. Merci encore une fois pour votre fidélité. On se retrouve demain pour Roten sans flamme. Ça s'arrête jamais. Tout au long de la semaine, de 18h à 20h, du lundi au vendredi. Demain, on est mardi. Grosse émission, vraiment. Il y aura des matchs. Il y aura de l'actu. Et il y aura de l'humour. Voilà. Bisous. À demain à partir de 18h.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.